Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
De l'info, du débat en ce dimanche 27 septembre, la chanson comme chaque week-end et l'analyse des grandes voix d'Europe 1. À la une, c'est Olivier Véran qui écarte ce matin un reconfinement national préventif avant Noël. Pour autant, les professeurs Amouyel et Mégarban notamment réagissent ce soir sur notre antenne. Signataires d'un collectif de médecins, ils revendiquent des mesures fortes et des mesures respectées par les citoyens. 19h15, je reviens encore sur la situation sanitaire à Marseille et dans le Grand Sud avec Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il défend les intérêts économiques de son territoire alors que les bars et les restaurants à Marseille ferment dès ce soir. 19h40, une chanson dans la tête avec Fabien Lecoeuvre. On vous parle ce soir d'un album fort de sens. Comme ils disent, une compilation de chansons engagées depuis les années 70 sur l'homosexualité.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement.
Comme ils disent, et pour chaque album vendu, 1 euro reversé à la fondation Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leurs parents ou chassés du domicile familial. Cela existe encore en 2020 et c'est Muriel Robin, marraine de cette association, qui viendra nous en parler. 18h30, dans le débat des grandes voix d'Europe 1, Emmanuel Macron, qui ne s'exprime pas sur l'attaque au hachoir à Paris, mais qui donne ce soir une nouvelle conférence de presse sur la situation au Liban. On parlera de la France à l'international. Voilà une partie du sommaire de ce 18-20. Merci de nous rejoindre. Pendant 2 heures donc, l'info arrive, puisque je salue Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Avec le journal, car il est 18h. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Voilà, c'est le rêve de ma carrière. Et... voilà. Je veux remercier forcément tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent.
L'émotion, et on le comprend, de Julien Alaphilippe, sacré champion du monde de cyclisme, premier français au maillot arc-en-ciel depuis 1997.
Ce collectif de médecins à la une qui redoute une deuxième vague plus difficile à gérer en réanimation que la première vague du mois de mars. À Marseille, les restaurateurs qui ferment avec résignation pour 2 semaines.
Et puis tous les Français pourront bénéficier d'une aide pour mieux isoler leur logement et de moduler en fonction de leurs revenus. Annonce de la ministre du Logement ce matin sur Europe 1.
Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la Marseillaise qui a donc résonné sur le circuit d'Imola en Italie cet après-midi. Et ce Français avec un maillot arc-en-ciel. Ça fait 23 ans que la France n'avait pas eu de champion du monde de cyclisme,
et
Fabienne.
Et c'est donc Julien Alaphilippe qui réussit l'exploit malheureux lors du dernier Tour de France et qui a donc réussi l'exploit cet après-midi, Axel May.
Oui, Alaphilippe a fait du Alaphilippe, placé l'une de ses attaques tranchantes dont il a le secret. Il a attendu la dernière difficulté de la journée, une belle bosse, la Cima Galisterna, à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, pour placer son accélération foudroyante dans les pourcentages les plus difficiles et rebelote. Quelques instants plus tard, il a accéléré une seconde fois pour creuser un peu plus l'écart avec le groupe des favoris. Ils ne le rejoindront jamais. Alaphilippe entre seul sur l'autodrome d'Imola. Il se retourne, prend le temps de savourer. Il se prend la tête avec les deux mains, fait virevolter un point rageur, franchit la ligne d'arrivée avec une vingtaine de secondes d'avance et tombe dans les bras de ses camarades de l'équipe de France. Les larmes coulent, sans doute pense-t-il à son père disparu avant le Tour de France. Ce Tour de France où, malgré 3 jours en jaune et une victoire d'étape, il semblait en retrait par rapport à l'an dernier. C'était en fait pour mieux préparer son objectif numéro 1 de la saison. Arrivé avec le statut d'outsider à Imola, il atteint un rêve qu'il avait seulement touché du doigt ces dernières années, notamment en Norvège il y a 3 ans. Sur le podium, son nouveau maillot arc-en-ciel sur le dos, Julien Alaphilippe est entouré du Belge Wout van Aert et du Suisse Marc Hirschi, qui furent très en vue sur les routes du Tour. Un maillot arc-en-ciel, Calaf, l'un de ses surnoms, pourra être aîné dès mercredi sur la Flèche Wallonne, dont il est le double tenant du titre.
Voilà, la Marseillaise qui résonne, et on en reparlera évidemment dans le Journal des Sports dans un instant avec Jean-François Pérez.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
18h02, est-on à l'aube d'une deuxième vague? Les choses sont-elles en train de s'accélérer? Un collectif de médecins lance en tout cas l'alerte aujourd'hui.
En effet, alors qu'on a encore recensé 14 400 nouveaux cas hier, il signe une tribune dans le Journal du dimanche pour dire qu'une deuxième vague sera bien plus difficile à gérer pour les services de réanimation que la première. Et surtout, Victor Delande, il redoute un scénario noir si des mesures drastiques ne sont pas prises.
Oui, ils ont fait des projections et annoncent que le nombre de patients admis chaque jour en réanimation dans un mois sera d'environ 650, équivalent à celui que nous avons connu au maximum de la première vague et dépassera 1200 mi-novembre. Patrick Bouet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, lui aussi est inquiet.
Nous sommes confrontés à la plus grande crise sanitaire mondiale que nous ayons connue depuis des décennies et que la France fait partie en Europe des pays qui aujourd'hui sont particulièrement frappés par le retour, la résurgence de l'épidémie et que donc il faut donner des discours clairs, des mesures claires, contrôler l'application de ces mesures claires.
Invité sur RTL à la mi-journée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été dans le même sens que ses médecins. Si nous ne mettons pas tous les moyens nécessaires pour freiner la circulation du virus, cela met en danger notre système sanitaire et les Français eux-mêmes, a-t-il martelé, coupant ainsi court aux contestations des élus locaux et des restaurateurs. En revanche, le ministre a balayé l'idée d'un reconfinement national préventif, comme l'ont proposé deux prix Nobel d'économie, dont Esther Duflo. Pas question d'arrêter totalement la vie économique et sociale des Français, a répété une nouvelle fois Olivier Véran.
Olivier Véran qui a aussi dit qu'il ne fallait pas avoir peur du télétravail. C'est une mesure importante, efficace et qui fonctionne bien.
Mais regardons aussi ce qui se passe chez nos voisins immédiats, un peu plus lointains aussi, de l'Italie à l'Espagne, du Royaume-Uni à Israël. La situation n'est pas différente en France. Voilà ce que nous dirons nos invités dans un instant, les professeurs Bruno Mégarban et Philippe Amouyel sur Europe 1. À Marseille, ce sont donc les dernières heures avant que les cafés et les restaurants ne baissent le rideau pour 2 semaines à partir de ce soir minuit.
Et après la fronde de ces derniers jours, les commerçants sont résignés, Mathieu Bock.
Oui, devant le bistrot Pernaud à deux pas de la mairie, Anouche regarde les derniers clients siroter leur verre. Cette jeune patronne a le visage marqué. La fermeture de ce soir est un coup dur pour elle, même si ces 2 jours supplémentaires permettent d'amortir la chute, dit-elle.
C'est mieux que rien. Bon, quand même, hein, avec le dégoût, la tristesse, on ne comprend pas. On a l'impression, des commerçants, de se battre pour vouloir travailler. Enfin, ça ne doit pas exister, ça. Bien évidemment, on ferme, mais derrière, il y a nos frais. Il faut payer les fournisseurs, il faut payer les loyers. Le chômage partiel, c'est bien beau, mais... c'est pas assez, quoi. C'est quand même triste, hein. Enfin, on n'a rien demandé, c'est ça le pire.
Tout le week-end, les clients sont venus encourager les restaurateurs et profiter une dernière fois des terrasses au soleil, comme Delia qui termine son jus de fruits.
Vendredi, on est sortis. Là, samedi aussi, on a profité un peu des restaurants. Aujourd'hui aussi, on essaye de profiter un maximum. Il y a quand même une certaine lourdeur. Là, on est dimanche, vous voyez, déjà, il y a beaucoup moins de monde. D'habitude, c'est beaucoup plus animé. Là, on sent que les gens, déjà, on dirait qu'ils sont déjà un peu préparés. Il y a un côté un peu fataliste, les gens ils sortent moins, hein, forcément.
Mais Delia rajoute qu'elle continuera à sortir dans les communes autour de Marseille qui, elles, ne sont pas concernées par ces fermetures.
Mathieu Bock à Marseille pour Europe 1.
Et on y retourne à Marseille à 19h15 avec notre invité, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Alors qu'en métropole, on redonne donc une deuxième vague, la situation s'améliore en Guyane au point que l'état d'urgence sanitaire a été levé il y a quelques jours.
Et du coup, Wendy, les habitants retrouvent un peu de liberté. C'est ce qu'a constaté à Cayenne notre correspondant. Correspondant Arnaud Béhari.
Mylène sort d'un dîner au restaurant. C'est sa première sortie depuis plusieurs semaines.
On avait envie nous-mêmes d'être libérés de tout ça. En fait, c'est de sortir de ce temps de confinement qui a été très long et on va souffler un peu en prenant notamment des précautions. Hein. Comme vous, comme moi, nous portons nos masques. Nous savons que ce n'est pas terminé. Hein. On s'attend peut-être au pire ou au mieux, on ne sait pas. C'est une inconnue. Hein.
Pour Eric, il faut rester prudent à chaque sortie.
Il faut vraiment qu'on continue à garder tous les gestes barrières pour ne pas être de nouveau être obligé de reconfiner. Il ne faut pas se relâcher pour autant parce qu'en fait, le virus, il est toujours là.
Cette sortie de l'état d'urgence en Guyane a permis la réouverture des cinémas, des bars et des restaurants. Bastien Kureneur est restaurateur à Cayenne. Ce moment-là, il attendait depuis longtemps avec impatience.
Mine de rien, je pense que toutes les entreprises ont souffert de ce confinement et de cette crise sanitaire. Il y a de l'engouement, les gens sont contents. Donc pour le moment, on ne fait que du tapas et du bar à cocktail, mais tout le monde en profite pour boire un verre et puis prendre de nos nouvelles. Donc voilà, très content de la réouverture.
Malgré tout, le couvre-feu de minuit à 5h du matin est maintenu et en fonction de l'épidémie, les autorités pourront à tout moment lâcher du lest ou durcir les restrictions de liberté.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Le journal revient avec 9 personnes en garde à vue après l'attaque terroriste de vendredi. Gérald Darmanin, lui, était en visite dans une synagogue pour Yom Kippour. Il rappelle que la menace terroriste est toujours présente. A tout de suite sur Europe 1, 18h07.
Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Et Fabienne Lemoyle pour vous informer. Alors que 9 personnes sont toujours en garde à vue ce soir après l'attaque terroriste de vendredi, les policiers étudient en ce moment une vidéo.
Une vidéo dans laquelle l'assaillant, qui a clairement assumé son acte en garde à vue en disant qu'il visait Charlie, aurait enregistré un manifeste dans sa langue, le ourdou, mais sans faire de référence à un lien avec Al-Qaïda ou Daesh. Ce matin, Gérald Darmanin s'est rendu à la synagogue de Boulogne-Billancourt, déplacement alors qu'est célébré aujourd'hui Yom Kippour, déplacement lors duquel le ministre de l'Intérieur a bien redit que la menace terroriste était toujours là.
Le ministre de l'Intérieur est là pour rappeler la réalité aux Français, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement critique où nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous, de fait parce que les services de notre pays ont su, avant que les choses n'arrivent, intervenir plusieurs fois, une fois par mois, en moyenne pour un attentat déjoué depuis 3 ans. Et mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est de dire qu'effectivement, nous sommes toujours en guerre et que nous devons gagner cette guerre et que chacun doit être vigilant. Les Juifs sont particulièrement la cible, on le sait, des attentats islamistes et nous devons évidemment les protéger. Et il y a plus de 7000 policiers et militaires qui protègent en ce week-end les offices, notamment les offices du Kippour.
Gérald Darmanin avec Diane Berger. À l'étranger, vive tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux États ont déclaré la loi martiale alors que des combats ont repris depuis ce matin au Nagorno-Karabakh, région qui fait partie de l'Azerbaïdjan, mais que revendique Erevan. Combats qui ont brisé le cessez-le-feu qui courait depuis 1994. Et puis Donald Trump donne le ton à 2 jours de son premier débat face à Joe Biden. Dans un tweet, le président américain dit qu'il va fermement exiger un test antidopage. Pour Joe Biden, l'endormi, écrit-il, avant ou après le débat mardi soir, laissant entendre que les prestations de son adversaire font planer le doute sur l'usage ou non de médicaments.
C'est dit, tous les Français pourront bénéficier des aides à la rénovation énergétique. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre du Logement, invitée du Grand Rendez-vous, Emmanuelle Wargon.
On compte en France près de 5 millions de logements mal isolés et Aurélien Fleureau, ces aides seront modulées en fonction des revenus des ménages.
Oui, c'est la grande nouveauté du dispositif MaPrimeRénov. Chacun pourra consulter un simulateur en ligne dès le 5 octobre pour connaître le montant de la réduction que l'on peut anticiper pour ses travaux de rénovation énergétique, isolation thermique, chaudière, etc. De 40% pour les ménages les plus aisés jusqu'à 90% pour les plus modestes. Une prime calculée en fonction de vos revenus, de votre lieu de résidence et du type de travaux. Un dispositif détaillé ce matin sur Europe 1 par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.
Ce sont des aides qui arrivent en partie en réduction de factures. Je pense à une famille qui habite par exemple la Bretagne, le Morbihan, un projet de rénovation globale. 40 000 euros de travaux, il y aura à peu près 15 000 euros de réduction de facture et le reste c'est une aide qu'on demande sur internet et qu'on a dès la fin des travaux. On peut même demander une avance si on en a besoin et avec tout ça pour cette famille là on sera à un peu plus de 20 000 euros d'aide.
Cette aide pourra être demandée à partir du 1er janvier 2021 mais elle va concerner les devis signés après le 1er octobre prochain, donc à partir de jeudi. Et puis deux nouveautés pour lutter contre les passoires thermiques, un bonus de 1500 euros pour les maisons individuelles et l'accès désormais possible aux bailleurs privés, alors que 15% des logements en France sont mal isolés.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle, à samedi midi pour l'info et pour tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Fabienne, merci. La météo. On est passé de l'été à l'automne en 2 jours, ça surprend, vous l'avez constaté. Est-ce que l'ambiance est un peu moins austère, un peu moins froide demain, Valérie Darmon?
Absolument Wendy, même si les nuages dominent toujours, mais au moins les températures remontent un tout petit peu. Ouf. Sur la façade atlantique jusqu'en Normandie, vous vous réveillerez avec un temps sec et ensoleillé, mais le ciel se couvrira progressivement au fil de la journée sur la pointe bretonne avec quelques bruines. Le soleil dominera également près de la Méditerranée avec du vent autour du golfe du Lion. Mistral et Tramontane qui soufflent à 70 km/h en général, jusqu'à 90 sur le littoral. Et partout ailleurs, le ciel qui est très nuageux ou couvert avec des pluies éparses. Fréquente le matin du massif central au pied des Pyrénées et le soir sur le Grand Est, et il va continuer de neiger aux alentours de 1600 mètres. Les températures oscilleront entre 3 et 9 degrés le matin sur la moitié est, 6 à 13 à l'ouest et près de la Méditerranée. Les maximales en hausse varieront entre 14 et 19 en général et jusqu'à 23 près de la Grande Bleue.
Merci Valérie. Les sports à la une sur Europe 1. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On a entendu la magnifique victoire et l'émotion de Julien Alaphilippe il y a quelques instants. Champion du monde de cyclisme, une première pour la France donc depuis 23 ans. Mais ce dimanche marque aussi le début de la grande quinzaine de Roland-Garros version Covid.
Oui, sous un ciel pluvieux, une fraîcheur automnale et même sous un toit pour ceux qui évoluent sur le central. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir Jean-François, bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Des débuts plutôt réussis pour les Français, même si marathon perdant pour Jérémy Chardy il y a quelques minutes.
Oui, défaite en 5, 7, 10, 8, après 4h36 de combat dans l'humidité et le froid, et surtout après avoir eu une balle de match dans le troisième set. C'est donc fini pour Jérémy Chardy, tout comme pour Elliot Benchetrit et Antoine Hoang. Mais on va parler des satisfactions, Jean-François, avec la qualification de Caroline Garcia face à l'Estonienne Kontaveit, tête de série numéro 17. La Lyonnaise de 26 ans, 45e mondiale, a su résister au retour de son adversaire mené au troisième set. Caroline Garcia a renversé la situation, poussée par un public maigre, certes, mais présent. Et la voilà au deuxième tour, tout comme Benjamin Bonzi, issu des qualification 226e mondiale. Et en ce moment, c'est bien parti pour Benoît Paire sur le court Simone Mathieu, 2-7-0 face au jeune coréen Kwon.
Parfait, merci Corinne. À tout à l'heure. À suivre en ce moment même également l'affiche de ce premier tour sur le central sans le toit. Stan Wawrinka face à Andy Murray. C'est le Suisse pour l'instant qui mène dans le premier set. Et puis rendez-vous exceptionnel demain matin, 7h40. Novak Djokovic, rien que pour vous, le numéro 1 mondial, invité de Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1, le radio officielle foot. De Roland-Garros.
Eh oui, Roland-Garros et le foot aussi, c'est la suite de la cinquième journée de Ligue 1, Jean-François Pérez.
Un match en cours, le déplacement de Lorient à Lyon, le promu 17e face à des Lyonnais plutôt inconstants depuis le début de saison, sous les yeux de Loïc Folio. Bonsoir Loïc.
Bonsoir, c'est l'heure de jeu ici au Moustoir, un Olympique Lyonnais sans inspiration qui domine cette rencontre, mais alors de façon totalement stérile. L'opposition lorientaise est pourtant bien inoffensive, mais alors les hommes de Rudy Garcia n'ont pas franchement inquiété Paul Nardi, le portier morbihanais, qui s'est quand même extirpé de son sommeil sur des frappes contrées de Cornet, Diomandé et Dembélé, mais c'est clairement insuffisant, voire même inquiétant du côté lyonnais. La rentrée de Memphis Depay à la mi-temps n'a pour l'instant pas véritablement modifié le visage offensif de cette formation totalement apathique. Côté lyonnais, 0-0 entre Lorient et Lyon, une heure de jeu.
Et on attend des buts pour le prochain journal des sports à 19h10. En début d'après-midi, Bordeaux et Nice, pas mieux, 0-0. Les Niçois qui ont touché trois fois tout de même les montants des buts bordelais. Tout à l'heure, Monaco a battu Strasbourg 3-2 tout en étant à 9 contre 11. Grosse performance des Monégasques. Oui. Angers bat Brest sur le même score, 3-2. Dijon et Montpellier, 2-2. Et Nîmes-Lens, 1-1. Ce soir, 21h, Reims, la lanterne rouge qui accueille le PSG. Neymar, Mbappé, de nouveau réunis à la pointe de l'attaque parisienne. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s'en réjouit.
Si les deux jouent pour nous, ça change tout parce que c'est plus difficile de défendre, c'est plus facile pour nous d'attaquer, d'ouvrir des espaces. On veut jouer avec les deux et les deux sont là pour faire la différence et les deux sont bien ensemble et ils vont commencer ensemble, c'est sûr.
Voilà Thomas Tuchel au micro de Julien Froment, match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Un petit dernier mot de MotoGP, Wendy, pour vous dire que Fabio Quartararo a signé une nouvelle victoire en MotoGP sur sa Yamaha, troisième succès de la saison. Et il s'empare du même coup le Français de la première place au classement des pilotes. C'est plutôt une belle journée pour les Français à deux roues, avec ou sans moto.
On le redira, on en reprofitera à 19h10 en votre compagnie sur Europe 1. Merci.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Dans une minute trente, la parole est un collectif de médecins qui prône des mesures sanitaires concrètes dès ce week-end pour des vacances de la Toussaint réussies et sereines. On en parle dans le détail avec les professeurs Philippe Amouyel du CHU de Lille et Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h20, merci d'être à l'écoute du Grand Journal sur Europe 1. Dans l'actualité, l'éventualité d'une seconde vague dont on a du mal à mesurer l'ampleur et l'arrivée. D'où cet appel aujourd'hui, ce collectif de médecins dans le journal du dimanche qui nous encourage de nouveau à respecter des mesures radicales. Pour en parler, je reçois ce soir deux de ses signataires, le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir. Bonsoir professeur. Et le professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation du CHU Lariboisière à Paris. Bonsoir Bruno Mégarban.
Oui, bonsoir.
Des mesures radicales pour des vacances de la Toussaint sereine. Voilà ce que vous écrivez. Autrement dit, notre vigilance actuelle, heure après heure, conditionne nos vacances dans les 15 prochains jours. Dit comme ça, par exemple, c'est extrêmement clair, Philippe Amouyel.
Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que maintenant, on voit bien comment va être l'évolution dans les services de réanimation. Donc il est important d'agir vite et fort si vraiment on veut casser cette dynamique et revenir à un étiage plus normal de l'arrivée des patients en réanimation.
Avec la clarté qui manque peut-être, on a un président de la République qui nous dit « lavez-vous les mains, portez le masque, gardez vos distances ». Mais vous allez plus loin dans la précision, Bruno Mégarban. Par exemple, vous nous dites « au restaurant ou dans les bars, on porte le masque en permanence et on ne le retire que lorsque l'on consomme. On le remet ensuite, quasiment fourchette après fourchette ». C'est extrêmement précis, mais le diable est dans les détails. C'est ce que vous nous dites aussi.
Bah écoutez, oui, on va dire depuis maintenant quelques semaines, on observe une augmentation des contaminations et maintenant depuis une dizaine de jours, une augmentation très nette de l'arrivée des patients en réanimation. Et donc, ce malgré évidemment l'application par beaucoup de ces mesures barrières et du port du masque désormais universel. Néanmoins, on observe, quand on observe la vie de tous les jours, on voit qu'il y a encore des trous. À quoi sert de mettre le masque en permanence au travail, dans la rue, et puis effectivement rentrer le soir et organiser une soirée chez soi et l'enlever avec des amis qui peut-être sont contaminés sans le savoir et qui vont véhiculer le virus. Et par la suite, vous allez le porter à des personnes plus fragiles, plus âgées, et donc malheureusement leur faire prendre un risque d'avoir une forme grave de pneumonie. Donc en fait, la vigilance doit être de toutes les minutes. Et il faut effectivement être très vigilant encore pendant les 15 jours, 3 semaines qui viennent, pour pouvoir casser la circulation du virus, et alors on pourra respirer davantage.
Mmh. D'ailleurs, vous avez établi très précisément, professeur Philippe Amouyel, pour le CHU de Lille, une projection de l'évolution de nouvelles hospitalisations en réanimation. Si on ne fait rien de plus qu'aujourd'hui, si on entre dans un confinement général, ou si on applique les mesures telles que vous nous les recommandez aujourd'hui. Et c'est très clair, le résultat est très clair.
Donc très très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les données de la première vague et on s'est rendu compte que la croissance était exponentielle, c'est-à-dire que les chiffres doublaient très régulièrement tous les 3 jours. Puis, on a vu l'impact du confinement qui est apparu 3 à 4 semaines après le début du confinement et on s'est rendu compte que tout ça a diminué. On a libéré les gens le 11 mai et pendant l'été, on a eu en effet une descente de ces entrées en réanimation. Puis, à partir du mois d'août, on a quand même eu une petite tendance à l'augmentation très faible, hein. Et en mois de septembre également, et la troisième semaine de septembre, avec mon équipe, on a regardé un peu à quoi ça correspondait. On a testé des modèles d'exponentielle, comme pour la première vague, mais avec des temps de doublement beaucoup plus longs, sur 15 à 3 semaines. Et on s'est aperçu que ça collait parfaitement avec la courbe qu'on avait observée d'août à septembre. Et lorsque l'on prolonge cette courbe à partir de la forme de cette courbe d'exponentielle, qui est une forme mathématique très classique, on s'aperçoit qu'on va maintenant assister à une accélération du fait de ce doublement, certes plus long, mais qui s'accélère vers le milieu de la courbe. Et si on ne faisait rien, et le facteur qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on compare des choses qui sont comparables entre la première vague et la deuxième
très
vague,
bien.
C'est-à-dire les entrées en réanimation,
oui.
Ce que l'on voit à ce moment-là, c'est qu'à partir du 12 octobre, on aura quasiment autant d'entrées quotidienne en réanimation que ce qu'on avait au plus fort de l'épidémie.
Oui, d'où le renforcement très clairement du côté de l'autorité d'un certain nombre de mesures, y compris celles qui font polémique. Mais à Marseille, les bars, les restaurants, la fermeture des bars à 22h à Lyon ou Paris, tout cela a un sens extrêmement précis. Ce n'est pas de la politique, c'est aussi de la santé publique.
C'est d'abord de la santé publique. Puisque ensuite on a pu voir l'effet de ces mesures. Alors bien sûr, la mesure extrême serait le confinement, mais on ne parle pas de confinement aujourd'hui. Mm-hmm. Donc on a remodélisé le confinement et on voit qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on redescend et on casse la courbe de progression.
Oui.
Alors, on n'a pas pu modéliser les nouvelles mesures, mais on imagine qu'elles vont être légèrement au-dessus et on va avoir une semaine de plus. Mais c'est ça qu'il faut faire maintenant, vite et fort.
Professeur Bruno Mégarban, vous prenez aussi dans cette tribune l'exemple de pays étrangers, voisins comme l'Espagne, l'Italie ou Israël, où des mesures drastiques ont été mises en œuvre. L'Italie, c'est une amende de 1 000 euros à celui qui violera la quarantaine. Ce sont des tests rapides et gratuits aux aéroports pour les voyageurs qui proviennent de pays jugés à risque, notamment la France. Quand on revient de l'étranger en France, ce sont des passoires. Il n'y a pas de tests. C'est quand même le monde à l'envers. Et ce sont deux poids, deux mesures que vous, à titre vraiment de professeur, vous ne comprenez pas, j'imagine.
Oui, effectivement, je crois que la vigilance individuelle est très importante, la responsabilité individuelle très importante, mais aussi la stratégie générale des autorités de santé est aussi majeure. Et donc, effectivement, on a vu que actuellement, malheureusement, le testing et le tracing voient un certain nombre de limites liées aux embouteillages. Très probablement, il faut prioriser. Effectivement, il faut, je pense, rapidement passer à des tests plus simples, notamment les tests salivaires, voire antigéniques, pour pouvoir permettre un meilleur dépistage et un meilleur isolement. Parce que la clé, en fait, du problème, c'est l'isolement immédiat de toute personne porteuse du virus. Encore faut-il que rapidement elle le sache. pour pouvoir le faire. Parce qu'évidemment, rester en isolement sans savoir dans quelle situation on est, ce n'est pas très motivant. Et le fait de se savoir contaminé, bien sûr, va augmenter l'adhésion de la personne à cet isolement. Parce que personne d'entre nous ne souhaite contaminer les autres, et notamment sa famille proche ou ses parents plus âgés.
L'idée d'instaurer un confinement national sur les 20 premiers jours de décembre, comme l'a proposé la prix Nobel de l'économie Esther Duflo, pour permettre à chacun de retrouver ses proches pendant les fêtes, c'est une idée qui peut faire son chemin chez les professionnels de santé dont vous êtes, Philippe Amouyel ?
Alors déjà, le confinement, oui, pourquoi pas, comme l'ont fait les Israéliens pendant 3 semaines, oui, tout de suite. Mm-hmm. Pourquoi attendre décembre, déjà, si même on imagine un confinement ? Je pense qu'avant de prendre cette mesure, il faut essayer de convaincre les Français de respecter ces mesures barrières, tant à l'extérieur que chez eux, et comme vous l'avez dit fort justement, assurer une logistique et une organisation du tester, tracer, isoler, qui soit peut-être plus efficace que celle que l'on connaisse actuellement.
Je vais vous donner une formule, celle du gouverneur de Naples, qui a un langage fleuri mais qui veut dire sans doute ce qu'il veut dire et qu'on comprend bien. Plus nous ferons les imbéciles, plus longtemps durera le calvaire. Le mot de la fin, professeur Bruno Megarban.
Oui, tout à fait. Mmh. Et j'allais dire, la difficulté en fait, c'est que malheureusement, en cet hiver, cette crise Covid va coïncider avec les épidémies habituelles de tous les hivers, l'épidémie grippale, les décompensations des problèmes respiratoires et cardiaques. Et donc déjà, de base, malheureusement, les lits de réanimation vont être saturés, ne serait-ce que par les problèmes habituels, comme tous les ans. Et donc là-dessus se surajoute le problème du Covid, d'où évidemment le fait qu'il faut absolument être vigilant pour éviter une catastrophe à venir.
Et vous le redites, toutes les activités en tout lieu rassemblant des personnes issues de foyers différents pour lesquels les mesures barrières ou le port du masque ne peuvent être respectées doivent être suspendues. Si elles ne le sont pas, eh bien vous ne vous y rendez pas. C'est aussi voilà. Ça la responsabilité individuelle. Merci,
tout
messieurs.
Il faut tout faire pour éviter le confinement.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Voilà, c'est bien sûr le discours aussi d'Olivier Véran. C'était très clair de votre part aussi. Professeur Bruno Megarban et professeur Philippe Amouyel, signataire de ce collectif de médecins aujourd'hui.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
On revient dans 2 minutes avec le fil info et le débat des grandes voix. On va revenir évidemment sur cette gestion épidémique, mais aussi sur la posture d'Emmanuel Macron, cette conférence de presse sur la situation au Liban notamment. À tout de suite avec Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa et François Clos.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
18h31, vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Voici d'abord le fil info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Nous ne voulons pas reconfiner, déclaration d'Olivier Véran à la mi-journée. Le ministre de la Santé écarte un reconfinement préventif avant Noël. Toutefois, des restrictions de circulation pourraient être imposées pour les vacances de la Toussaint en fonction de la situation. Fermeture totale des bars et restaurants à minuit ce soir uniquement dans les villes d'Aix et de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et ce pour 2 semaines. Selon la préfecture, les activités de livraison et de vente à emporter pourront continuer. La garde à vue du principal suspect de l'attaque au hachoir à Paris prolongée de 48 heures. 8 personnes sont toujours interrogées par la police. Ce matin, Gérald Darmanin a affirmé que nous étions en guerre contre le terrorisme islamiste et a reconnu que le risque terroriste avait peut-être été collectivement négligé. L'Azerbaïdjan déclare la loi martiale et le couvre-feu à Bakou. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont au bord de la guerre. Des combats meurtriers ont éclaté près de la région séparatiste de Karabakh, soutenue par Yerevan. Nouveau dimanche de protestation contre le président Loukachenko en Biélorussie. 200 personnes ont été arrêtées lors des manifestations de l'opposition à Minsk. Et puis 23 ans que ça n'était plus arrivé, un Français champion du monde de cyclisme, Julien Alaphilippe, décroche l'or à Imola, en Italie.
On vous retrouve à 19h pour le journal. Le ciel avec des températures qui remontent tout doucement, Valérie Darmon, demain.
Et oui, tout à fait, Wendy, avec un écart qui se comble entre les moyennes de saison et les maximales de ce lundi. 11 annoncés à Rodez et Épinal par Météo France, 13 à Bourg-en-Bresse et à Vesoul ainsi que Clermont-Ferrand, 14 à Dijon, 15 à Lyon, 16 degrés à Châteauroux, 17 à Paris, on voit qu'on gagne 2 petits degrés par rapport à ce dimanche, 18 à Périgueux, 19 à Caen et Angoulême et 21 à Nice. Des températures qui vont continuer de remonter tranquillement tout au long de la semaine. Du côté du ciel, il est aussi à l'amélioration avec le retour du soleil depuis la Basse-Normandie jusque sur le Nord-Aquitaine et les pluies qui persistent. Mais elles sont vraiment très éparses et surtout très faibles depuis les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine, jusque sur le Massif central. Beau temps aussi toujours sur la Grande Bleue. Et sur la façade est, vous retrouvez aussi quelques belles éclaircies et la neige qui cesse peut-être de tomber. En tout cas, elle floconne uniquement.
Europe Bonsoir Week-end. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Nous sommes en débat jusqu'à 19h sur Europe 1 avec les grandes voix de ce dimanche 27 septembre. Laetitia Krupa, journaliste politique, est avec nous. Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique, président de MCBG Conseil. François Claus, grand reporter et rédacteur en chef à Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au moment où vous prenez la parole, chers amis, Emmanuel Macron l'apprend de son côté depuis l'Élysée. Conférence de presse exceptionnelle sur la situation au Liban. Il le déclare à l'instant, c'est un mois qui vient d'être perdu. On viendra sur la situation et sur sa prise de position, ses allocutions à répétition. La France amie du Liban, mais un président qui ne s'exprime pas par ailleurs sur l'attaque à Paris. Les Français sont prêts à accepter des mesures restrictives, voire un nouveau reconfinement pour se débarrasser de l'épidémie. On a entendu ce collectif de médecins, il y a aussi ce prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, qui s'exprime également. Discours ferme face à ceux qui veulent qu'on les laisse vivre, de Nicolas Bedos à André Comte-Sponville. Un tiers seulement des Français font confiance dans l'exécutif pour lutter contre le Covid et vous réagissez.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
On commence d'abord cette demi-heure traditionnellement avec vos coups de griffe, vos coups de cœur, vos coups de blues. Coup de cœur, Laetitia Krupa, pour un homme politique, une fois n'est pas coutume. On vous écoute.
Pour Édouard Philippe, qui réussit le tour de force d'être au cœur de toutes les convoitises, médias, opinion publique, sans rien faire, ou presque. Depuis quelques jours, il se murmure, je pense que vous l'avez entendu, Wendy, qu'un sondage va sortir avec des scores de popularité inégalés pour un Premier ministre sortant, viré, rappelons-le quand même, hein, pour bons et loyaux services. Il est fort, cet Édouard Philippe. Hein. Il a capitalisé sur sa victoire au Havre, alors que la majorité présidentielle prenait une déculottée au municipal. Et depuis, il capitalise aussi sur son image, sa posture d'humilité, qu'il avait bien travaillé pendant la crise du coronavirus. Il entretient son extraordinaire popularité avec des efforts à minima. Alors, des cartes postales, la dernière photo, vous l'avez vue. Sur un ring à l'aube pour un entraînement secret, là je cite la presse, secret, mais il y a quand même un appareil photo ou un portable avec le champion d'Europe de boxe Angevin. Et alors ces petites phrases, hein, tout le monde s'est extasié sur ces prédictions de tempête économique, sanitaire et sociale, mais enfin comme si on ne s'était pas rendu compte qu'on était en plein dedans. Bref, il y a un climat de bienveillance médiatique quasi unilatéral. Il fait la une de l'Express cette semaine et il est donné déjà grand gagnant de 2022. Moi, j'y vois juste un enseignement, Wendy. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que finalement, s'il est aussi populaire que cela, ça va à l'encontre du cliché de cette France paysanne, complètement déconnectée et qui déteste les élites parisiennes. Mmh. Parce qu'Edouard Philippe, c'est quand même l'incarnation parfaite de cette élite qu'on adore détester en France. Donc, est-ce que c'est un signe pour 2022 ? Certainement.
En tout cas, elle a martelé que le temps des aventures personnelles et partisanes n'était pas venu. Il a réaffirmé sa loyauté à Emmanuel Macron. Il a fait tout le service après-vente.
Mais c'est dépensif. En fait, on adore Édouard Philippe alors que franchement, il a quasiment rien fait et qu'il est pensif sur pensif.
Ah, rendez-nous Édouard Philippe, disait un certain nombre d'internautes en regardant Jean Castex face aux Français sur France 2. Peut-être l'avez-vous souligné aussi, Philippe Moreau-Chevrolet. Il y a maintenant, ça y est, nostalgie Édouard Philippe qui s'est installé dans une partie du pays.
Oui, c'est-à-dire que la comparaison entre Jean Castex et Édouard Philippe est assez dure pour Jean Castex parce qu'Édouard Philippe a géré la crise, donc on s'était habitué à lui d'une certaine façon. Il avait montré sa capacité aussi à rassurer les Français. Il s'était mis dans une communication horizontale qui n'est pas du tout sa culture, mais qu'il avait mis en pratique sur les chaînes info. Donc, quelque part, on lui sait gré de s'être mis à notre niveau dans une période extrêmement anxiogène. Moi, j'ai un coup de cœur pour un livre qui va un petit peu à l'encontre de la culture d'Édouard Philippe et de beaucoup d'autres, qui s'appelle « Les inamovibles de la République
oui. »
par Chloé Morin, qui est chercheuse à la Fondation Jean Jaurès. Et ça parle des hauts fonctionnaires. Alors, ça répond à la question que vous vous êtes peut-être posée, Wendy. Comment ça se fait qu'on change de politicien sans arrêt, que d'homme politique, et qu'on a l'impression à chaque fois que ça va être le grand soir? Et puis, ça ne change pas au fond, finalement.
Et qu'on a un modèle, qu'on a une structure de pensée quasiment qui s'applique au pays. Ouais.
Oui, c'est ça. On a l'impression que tout change et que rien ne change en même temps. Donc, c'est extrêmement perturbant. Et elle dit, elle, si rien ne change malgré les vagues dégagistes, malgré la quête constante de figures politiques toujours plus radicales, nouvelles, disruptives, ne serait-ce pas parce que le problème est aussi ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les seuls, les hommes politiques, à détenir les leviers du pouvoir et à déterminer les conditions d'application de leurs décisions. En d'autres termes, il y a quelque chose qui s'appelle les hauts fonctionnaires et qui sont, depuis Napoléon, mis en place et quasi inamovibles. Et c'est eux, véritablement, qui font la politique du pays. Il faut savoir que sur un budget national, il n'y a que 97%, il n'y a que 3% qui sont bougeables, modifiables et que 97% sont reconduits d'année en année. C'est-à-dire que 97% du budget de l'État ne change quasiment jamais. Donc toutes les batailles politiques portent sur les 3% restants. Et ceux qui gèrent les 97%, ce sont les gardiens du temple. Mmh. Ce sont les hauts fonctionnaires. Et pour eux, les politiques sont des gens qui bougent, qui passent. Comme c'est raconté dans le livre, certains ministres se sont entendus dire « Vous savez, monsieur le ministre, c'est bien d'avoir des idées, mais nous, on sera encore là quand vous n'y serez plus. » Donc le rapport de force n'est pas forcément égal entre des ministres qui découvrent parfois tout un univers et des hauts fonctionnaires qui sont là pour durer. En même temps, c'est ce qui permet au pays de tenir. Et en ça, le livre est précieux parce qu'il n'est pas un livre contre les hauts fonctionnaires. C'est une déclaration d'amour à la fonction publique. Et donc, elle essaie de trouver des solutions, Chloé Morin, pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires soient plus efficaces, moins détestés. Et elle a notamment comme idée de mettre une des promesses du candidat Macron en application, qui est le spoil system, qui consiste à changer les hauts fonctionnaires au moment où on change de gouvernement. C'est-à-dire qu'on va remplacer ces personnes pour les mettre ailleurs, si possible pas dans le privé, dit-elle, pour éviter les conflits d'intérêts. Et cette façon de penser rejoint une critique qu'on voit aux États-Unis sur ce qu'on appelle l'état profond. C'est un terme qu'a utilisé Emmanuel Macron, qui est finalement, quelle est la vraie capacité des politiques à changer les choses ? Est-ce que le problème ne serait pas plus profondément dans les racines de l'État ? Ça rejoint du complotisme aux États-Unis, mais ça reste une question légitime.
Elle parle de l'ENA, de la suppression de l'ANA, évidemment, mais qui n'est pas
de la bataille perdue pour la suppression de l'ENA.
Voilà, qui revient
régulièrement. C'était une des promesses du candidat Macron de réformer tous ces hauts fonctionnaires, tout ce système, cette administration française. Bah, visiblement, il a échoué, oui.
On va terminer ce tour de table par votre coup de gueule ce soir, François Claus, qui rejoint l'actualité immédiate au moment où Emmanuel Macron, depuis l'Élysée, s'exprime sur la situation au Liban, François.
Oui, au moment où j'ai été assailli par ce coup de gueule, je ne savais pas d'ailleurs que le président de la République allait s'exprimer ce soir sur le Liban, car c'est autour du Liban. C'est parce que j'ai un coup de cœur pour ce pays, pour ce peuple que j'adore, qui fut un pont extraordinaire entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident, qui a survécu à ces terribles blessures de 15 ans de guerre civile et qui a donné une leçon au monde entier sur la manière de se reconstruire à ce moment-là. Un pays délicieux, un pays sensuel, peuplé par ces 7 millions d'habitants qui donnaient une leçon au monde entier et qui sont aujourd'hui prisonniers d'une poignée de chefs de guerre, qui sont aujourd'hui les chefs des partis, incapables de modifier leur pays, malgré les 190 morts, malgré les 4000 blessés de l'explosion du 9 août dernier. On pensait que le Liban allait, entre guillemets, pouvoir profiter de cette explosion et de ce drame national pour se changer. Eh bien, on nomme un nouvel homme pour fonder un gouvernement qui démissionne quelques heures après, M. Mustapha Adib, et le Liban se retrouve dans la même impasse. Le quotidien L'Orient le Jour parle même d'une autoroute vers l'enfer aujourd'hui. Impuissance de pouvoir aujourd'hui changer ces hommes corrompus qui se partagent le pouvoir sans pouvoir gérer simplement le ramassage des ordures, l'électricité ou l'internet dans le pays. Bref, un pays sans État. Et de ce point de vue-là, on en parlera tout à l'heure, je comprends que le président Macron, qui est allé deux fois sur place, veuille continuer à mener ce combat, qui est un combat exemplaire. Et puis au-delà de cette réflexion concernant le Liban, il y a 10 ans débuté dans le monde ce qu'on a appelé presque 10 ans les printemps arabes, où on se disait qu'à ce moment-là, la force du peuple dans la rue pouvait pousser les pouvoirs à changer. Qu'en reste-t-il 10 ans après, quand on voit qu'il y a eu encore 200 arrestations en Biélorussie aujourd'hui, qu'un président s'intronise en catimini alors que toute la rue n'en veut plus, quand on voit que depuis des mois, le peuple algérien dans la rue manifeste sans que les généraux assis sur leur tas d'or ne veuillent bouger, et quand on voit aujourd'hui le Liban, eh bien oui, c'est un vrai coup de gueule ce soir.
Je vous entends et on va prolonger cette discussion maintenant, parce que Emmanuel Macron dit avoir pris acte de cette trahison collective de la classe politique que vous venez de décrire, François Claus, après cet échec à former ce gouvernement. Cite également le Hezbollah. Il ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est, ce parti du Hezbollah. Macron qui accuse cette classe politique libanaise d'avoir trahi ses engagements. C'est un mois qui vient d'être perdu, dit à l'instant le président de la République française. Pourquoi une conférence de presse sur la situation politique au Liban ? On aimerait votre perception, votre éclairage aussi, Philippe Morochevrel et Titia Krupa.
C'est très étonnant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres urgences complètement nationales et qui mériteraient qu'il intervienne. Il y a une vraie querelle nationale qui oppose des régions entières autour du Covid ou de la Covid, comme on voudra. Ça, c'est une urgence qui nécessiterait peut-être que le chef de l'État intervienne.
Il envoie son ministre de la Santé, soit.
Il envoie son ministre de la Santé. Ensuite, il y a le Charlie Hebdo. Le silence du chef de l'État a beaucoup choqué sur Charlie Hebdo. Il aurait peut-être pu... il était peut-être légitime à se taire, mais pourquoi, dans ce cas, le lendemain ou le surlendemain, intervenir sur le Liban ? Il y avait la mort de Chirac, il y a un an de la mort de Chirac. Enfin, il y avait beaucoup d'occasions durant lesquelles on attendait une parole du chef de l'État. Le Liban, ça reste un choix étonnant. On a l'impression qu'il a ses obsessions, ses lignes directrices, Emmanuel Macron, et qui ne sont pas forcément celles du pays.
Après, on ne peut pas reprocher à un président de la République, on a tellement reproché à ses chefs d'État de venir sur place, de venir dire, il faut se souvenir de ce qu'a été quand même l'émotion et le drame le 9 août dernier à Beyrouth, que ça a suscité à ce moment-là. Il y va, il dit ça ne peut plus durer, qu'il prenne le dossier à bras-le-corps, plutôt que de venir dire, bon, ben maintenant qu'il se débrouille, s'il y a quand même une forme de noblesse, qu'un président de la République aussi en France soit là pour donner une ligne directrice depuis la fameuse phrase de Chaban-Delmas en 1959 sur les domaines réservés du président de la République et qu'il intervienne sur des questions d'équilibre mondial.
Bien sûr, mais notez le contexte,
Liban,
François Claus.
C'est une guerre potentielle.
Vous êtes bien
aussi,
placé pour connaître le contexte et la perception par les citoyens. On s'interroge là-dessus. Alors,
L'un contre l'autre, mais qu'il parle sur le Liban, ça me semble légitime compte tenu de l'investissement qu'il y a mis.
Laetitia Clopin.
Là, François Claus a donné vraiment... la bonne définition de la stratégie d'Emmanuel Macron, parce qu'il séquence sa parole présidentielle. C'est ce qu'on m'a dit dans les couloirs de l'Élysée. Il se dit qu'il séquence sa parole présidentielle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la diluer et que là, il est dans une séquence internationale. Il part après dans les pays baltes. Il va aller aussi se positionner par rapport à la Biélorussie en soutenant l'opposante et en disant aujourd'hui dans le JDD, en donnant un entretien, Loukachenko doit partir. Donc on voit bien...
Déclaration très forte quand même.
Absolument.
Effectivement, dans quelle séquence se trouve le chef de l'État ? Il est le défenseur du rayonnement français. Donc, en termes d'image, c'est très clair.
On pouvait l'attendre quand même sur la lutte contre le terrorisme, parce que pour le coup, qui dépasse les frontières.
Il réserve sa parole. Il a annoncé qu'il allait intervenir au moment de la loi sur le séparatisme.
Voilà, là,
qui est peut-être le fond du problème. Oui. Et c'est peut-être là qu'on attend plus un président que dans l'émotionnel à court terme.
Après, c'est très clair sur le séparatisme. L'Élysée dit qu'effectivement, il prendra ce problème à bras-le-corps, mais lors de sa prise de parole le vendredi prochain. Oui. Parce qu'il ne veut pas, comme je disais, diluer sa parole. Et donc, il fera un focus. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Pour ma part, je ne crois pas du tout. Parce que l'opinion publique ne comprend pas de cette façon-là, cette stratégie un peu théorique. Après, là, Emmanuel Macron sur le Liban... Il s'est aussi impliqué personnellement. Il y est allé deux fois. Il a promis aux Libanais quelque chose. Un chef de l'État français qui promet à un peuple opprimé...
C'est aussi un échec personnel.
Bien sûr, il est obligé, quasiment obligé, sur la scène internationale. Il faut aussi, on est en France certes, mais enfin, il joue aussi son leadership sur la scène internationale.
Bien sûr.
Donc, il faut prendre en compte ce prisme-là.
Philippe Monchevalet, une petite pause ensuite.
Oui, donc ça reste un choix étonnant parce que ce n'est pas du tout raccord avec l'opinion française qui est... en train d'exprimer une défiance extrêmement forte vis-à-vis du gouvernement. On a envie de dire il y a le feu ici politiquement et on a besoin de quelqu'un qui soit un arbitre et qui vienne mettre du calme. Et ce n'est pas le moment d'aller faire des aventures ou des séquences de communication internationale qui sont très jolies, mais Laetitia a raison, purement du jus de crâne. Ça correspond à aucune réalité.
Après, je ne suis pas sûr qu'une prise de parole solennelle autour de l'attentat aurait recréé de la confiance autour de lui. Enfin, si on raisonne en termes de rendu politique à court terme, on n'était pas non plus dans une phase où on était en train de rechercher et à vivre dans une angoisse, un complot venant de l'étranger, venant la police à arrêter quelques heures après l'auteur des faits. C'est dramatique, j'en suis bien conscient. L'émotionnel, les Français l'ont ressenti à ce moment-là. Est-ce que la figure du président aurait, dans une intervention devant l'Élysée, contribué à calmer les esprits, alors que le ministre de l'Intérieur et le procureur avaient pris la parole sur le dossier ? Je n'en suis pas sûr non plus.
Ça veut aussi dire que ce sujet est vraiment explosif pour l'exécutif. Il y a une vraie fébrilité, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ils n'étaient pas encore d'accord sur quel terme employer vendredi prochain, comment, quelle ligne directrice au sein de l'exécutif il y a. Un peu une opposition sur cibler ou pas l'islam politique. Certains sont pour, Emmanuel Macron apparemment non, voudrait parler des séparatismes pour ne pas cibler l'islam politique. Donc on voit bien que sur l'exécutif, sur ce sujet est fébrile et donc préfère effectivement assurer son coup vendredi prochain.
C'était très intéressant de vous entendre sur ce sujet, alors qu'Emmanuel Macron déclare donc avoir pris acte de la trahison collective de la classe politique libanaise. Le parti libanais porte l'entière responsabilité de ses échecs, dit-il à l'instant depuis l'Élysée, et elle sera lourde, cette responsabilité. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, François Claus pour cette analyse à chaud aussi de cette prise de parole. L'actualité, c'est aussi la lutte contre l'épidémie, la gestion de crise, la confiance des Français prêts à 72% à se reconfiner totalement, par exemple, pendant 15 jours.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h50, encore quelques instants avec les grandes voix d'Europe 1, le week-end. Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de SCBG Conseil. François Claus, grande voix d'Europe 1, reporter, rédacteur en chef, ici dans la maison. On parlait hier avec vous, Laetitia et Philippe, du soldat Véran, qui a su convaincre Emmanuel Macron sur l'état de l'épidémie avec des projections alarmantes qui l'ont fait changer de stratégie, notamment sur le territoire sud, Marseille et Aix. Il était invité ce matin du grand jury RTL. Écoutez.
Nous ne voulons pas confiner le pays. Nous ne voulons pas arrêter totalement la vie économique, sociale, culturelle, sportive, familiale des Français. On n'exclut aucune option, mais on ne se projette pas dans l'option du confinement. On agit pour l'empêcher.
Voilà, il dit aussi d'autres choses, Olivier Véran, ce matin, notamment sur les EHPAD. Nous avons besoin de renforts. Il appelle les soignants à combler les postes ouverts, les postes financés, les postes qui ne sont pas pourvus. Il y a ce discours factuel, réaliste, qui essaie de ne pas être alarmiste, mais qui dit les choses, dans la perspective de ce que vous nous disiez hier, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, il dit les choses. Alors, il a été prolongé par une interview assez intéressante dans le JDD ce matin du président du Conseil de l'Ordre des médecins.
Oui.
Qui lui dit carrément que ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'on risque un reconfinement dans la réalité et que la situation dans 3 ou 4 semaines risque d'être dramatique avec des problèmes de tri à l'hôpital, des problèmes de refus de soins parce qu'on ne pourra pas soigner tout le monde. Donc lui, le tableau qu'il dépeint, si on lisait le journal du dimanche, c'est vraiment, vraiment tragique. Enfin, il y a quelque chose du sentiment de l'urgence. On voit bien qu'Olivier Véran fait ce qu'il peut. Et ce que dit le président de l'Ordre des médecins, c'est qu'il n'est pas suivi par sa technostructure dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire qu'au fond, il y a un problème, peut-être pas de volonté politique, mais d'application. Donc, il y a quelque chose dans le système de santé français qui ne semble pas fonctionner, à la fois dans la gestion des tests et dans l'organisation de la réponse.
Et ce qui est intéressant à observer aussi, François Claus, c'est, même si Frédéric Dabi nous disait hier que sur cette crise, cette gestion de crise, les Français sont perdus, sont paumés au fond, c'est qu'ils sont prêts, à sacrifier encore de leur liberté pour se débarrasser d'un virus qui nous empoisonne. 72% souscrivent même à l'idée d'un reconfinement d'une quinzaine de jours.
Oui, alors bon, je ne suis pas sûr qu'on s'en débarrassera de cette manière-là, puisque tant que le vaccin ne sera pas là. L'inquiétude du monde de la santé, elle est réelle sur un plan, c'est qu'il n'y a plus de soupape de sécurité nationalement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait au printemps dernier des zones non touchées, des pans entiers du pays, l'Ouest, l'Aquitaine, qui donnait éventuellement aux services d'urgence une sorte de soupape qui n'est plus là aujourd'hui. Et donc cette réalité, elle est bien là, et qu'avec les épidémies classiques de l'hiver, plus le Covid, plus le mal endémique de l'hôpital français, avec la fermeture récurrente des lits que contestent depuis tant de mois les professionnels de santé, eh bien l'addition de tout ça fait avec le Covid qu'il y a un vrai risque de surcharge des urgences. Après, ce qui me gêne dans la déclaration d'Olivier Véran, c'est je veux que les Français continuent à vivre, à faire du sport, à travailler. Non, il veut juste que les Français continuent à travailler. Et ça, c'est quelque chose qui passe mal, évidemment. Et on a vu ce mouvement porté notamment par la déclaration très provocatrice de Nicolas Bedos, mais laissez-les vivre. Quand vous voyez des étudiants en médecine, par exemple, parlons-en, ils sont aujourd'hui internes, ils sont dans les services, ils doivent théoriquement apprendre leur travail. Cela fait 6 mois qu'ils ne font que de l'entretien Covid. On leur demande d'être 400 dans un amphi pour poursuivre leurs études. Mais attention, n'allez pas faire la fête après à 10 ou 15 à la sortie de votre amphithéâtre. Mmh. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où la fameuse phrase de George Orwell qu'il publiait déjà à l'époque en 1984 en dessinant ce monde terrible, je le cite là, hein, en dehors du travail, tout sera interdit, marcher dans la rue, se distraire, chanter, danser, c'était du George Orwell.
Incroyable.
On est un petit peu dans ce monde-là et que dans ce climat-là, il y a une volonté un besoin de rébellion contre ça et qu'il s'exprime de temps en temps. Je vais même dire, ça fait du bien de l'entendre s'exprimer, surtout si en parallèle tout le monde vient dire, mais on est prêt à faire l'effort pendant 3 semaines.
Ça vous fait réagir.
Oui, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la provocation, François, parce que oui, évidemment qu'on a tous envie d'être libre, ça c'est vraiment la base de la vie, donc bien sûr que danser, chanter, s'embrasser, faire l'amour. On en parle très peu de ça d'ailleurs, mais bien sûr, évidemment, qu'on a tous envie de faire ça.
De rencontre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en temps de Covid?
Oui, bien sûr, voilà, la rencontre amoureuse, c'est quand même au cœur de la vie. Mais ce que nous dit Olivier Véran ce matin, si on l'écoute bien, c'est, il demande aux Français, un effort sur un temps court. Alors là, pour l'instant, bien sûr que c'est 15 jours. On a tous ce traumatisme, finalement,
oui,
du confinement
qu'il soit clair, cet effort.
Qu'on
allons
nous a annoncé de 15 jours
allons
en 15 jours.
Alors, allons vers l'Estère du Flot. Et confinons totalement
prix
à ce moment-là.
Prix Nobel de l'économie. Confinement de 20 jours pour sauver nos fêtes de Noël. Ça vous a fait réagir, Philippe Rochevrolet, aussi.
Oui, c'est exactement le choix qu'a fait Israël hein, pendant les fêtes juives.
Oui.
Donc, on évite les
sortis,
rassemblements religieux. On évite les réunions qui sont des réunions liturgiques avec de la projection d'aérosol. On parle, on chante, on va crier, donc on va exprimer beaucoup de virus à ce moment-là, potentiellement. Donc ça, c'est un choix qu'ils ont fait qui est assez radical. Elle propose de faire pareil. Esther Duflo, c'est une spécialiste de la pauvreté à la base. Donc elle est plutôt sur l'impact économique minimal, c'est-à-dire on va faire ça avant Noël. Comme ça, au moment de Noël, les gens vont pouvoir se retrouver. On peut peut-être pouvoir reprendre une activité après
consommer,
Noël,
consommer, accessoirement, oui.
En fait, le problème, c'est la médiatisation, l'espace médiatique qu'on donne. Alors, bien sûr, c'est un prix Nobel d'économie,
hypothèse
évidemment.
Hypothèse rejetée par Olivier Véran,
ce matin. Non, mais bien pareil. Sûr, oui. Voilà. Mais en fait, les médias s'emballent parce que nous, on a besoin de storytelling. On aime aussi ces histoires. On aime fantasmer. On aime tout ce qui est charnel. On aime l'incarnation. Donc, bien sûr que cette proposition, elle est très concernante. Tout le monde la comprend. Mmh. Tout le monde peut se projeter. Donc, on a envie d'y croire. Les médias embrayent. Et finalement, elle est retoquée d'une phrase vraiment très simple par le,
c'est
par
de
le
la
ministre.
Prédiction, dit-il.
Ouais, oui, mais peut-être un peu rapide cette santé. Phrase, parce, que, oui. parce qu'il faut quand même réfléchir à cet état de... Il y a un médecin cette semaine que j'ai eu au téléphone qui travaille dans l'unité Covid de la Pitié qui me disait on est dans une forme de drôle de guerre ou de paix armée. C'est-à-dire la guerre n'est pas encore là, le conflit n'est pas là, mais il va arriver. On attend difficilement. Cet état-là est générateur de morosité terrible. Peut-être que ce serait plus simple à un moment donné de dire il faut bloquer l'épidémie plutôt que de surtout continuer à aller travailler, mais ne faites pas autre chose parce que l'épidémie est là. Or, dans les transports en commun et au travail, le Covid, il est là aussi.
Voilà. C'est pour ça que la Suède a opté pour le télétravail. C'est ce qu'on devrait faire en France.
Absolument.
On a un gros problème avec ça, mais en réalité, c'est une vraie solution.
Il ne faut pas avoir peur du télétravail, a dit ce matin Olivier Véran. Il ouvre la porte et l'opportunité à ceux qui le peuvent au travail.
Après, il faut que le MEDEF et les managers soient d'accord.
Au cas où il ne l'aurait pas compris, Olivier Véran, quand même, on a tous un petit Nicolas Bedos dans la tête en France. C'est extrêmement malheureux et dangereux parce que c'est notre partie immature, adolescente qui a besoin de s'exprimer.
Ouais.
Là, on a besoin de tous être adultes. Donc,
et
le problème, c'est que les Français ne sont adultes que sur commande. C'est-à-dire quand on leur dit là, clairement, tu vas devoir l'être, là, oui, ils deviennent adultes. Mais si on les incite à être adultes, ils redeviennent Nicolas Bedos.
Allez,
ce qui est juste important à retenir, c'est l'état de l'opinion publique française à l'instant T. C'est-à-dire que 2 Français sur 3 sont inquiets, 70% des Françaises sont inquiets et 65% ne font pas confiance à l'exécutif pour lutter efficacement contre l'épidémie. C'est ça qu'il faut avoir en tête et qu'il faut réussir à changer parce que sinon on n'y arrivera pas à relancer l'économie, à relancer la confiance, le travail, etc., etc.
C'était le débat des grandes voix. Merci à Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et François Claus pour leur éclairage, leur réaction, leur coup de gueule, leur coup de griffe et à la semaine prochaine sur Europe 1.
Wendy Bouchard, les grandes voix. Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez sur Europe 1, encore une heure ensemble, voici l'info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 19h sur Europe 1. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité.
L'attentat de vendredi a eu un effet d'inquiétude sur les communautés juives, puisque vous rappelez qu'en 2015 étaient visés l'hypercacher, donc les juifs.
Sécurité renforcée aux abords des synagogues pour la fête du Yom Kippour. 2 jours après l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo, les fidèles craignent pour leur sécurité.
Les nouvelles restrictions pour freiner l'épidémie de coronavirus entrent en vigueur ce soir dans les Bouches-du-Rhône. Appel à la désobéissance civile. Les restaurateurs ne comptent finalement pas mener la fronde.
J'ai honte pour les dirigeants libanais. Les mots durs d'Emmanuel Macron ce soir vis-à-vis de la classe politique libanaise après l'échec des concertations pour former un nouveau gouvernement.
Les élections sénatoriale. Nous retrouverons au Sénat Aurélie Herbemont pour un décryptage des résultats qui commencent à arriver. Et puis 19h50, si vous l'aimez dans la matinale sur Europe 1, vous allez l'adorer dans son podcast Les Éclaireurs. Ses invités prennent le temps de nous raconter le monde différemment. Ce soir, Céline Cousteau, la petite fille du commandant et son itinéraire en Amazonie. Ce sera à suivre avec Mathieu Béliard.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avant de développer tous ces titres, Sophie, la Marseillaise a retenti à Imola, en Italie. Les larmes de Julien Alaphilippe ce soir.
Oui, l'émotion du Français, les yeux et les bras vers le ciel. Une victoire dédiée à son père récemment disparu. Julien Alaphilippe est désormais champion du monde de cyclisme. Cela faisait 23 ans qu'un Français n'avait pas remporté le titre. Le dernier, c'était Laurent Brochard. Écoutez sa réaction.
Ça fait toujours plaisir. Je crois que le cyclisme français, on a énormément besoin. On a une nouvelle génération qui arrive, qui marche très fort. Et oui, après 23 ans, ça fait déjà un trou énorme. Je crois que c'est le plus grand trou qu'il y a eu entre les champions du monde. Donc, pour moi, c'est une satisfaction de Magatou. La Philippe, il y a quelques années, on s'était rencontrés lors d'une soirée de cyclistes. Et je lui avais dit, je pense que ce sera toi mon successeur. Et aujourd'hui, oui, je me suis pas trompé. Donc, je suis assez satisfait par rapport à ça, oui.
Laurent Brochard avec Axel May pour Europe 1. À la une de l'actualité également, la visite de Gérald Darmanin ce matin dans une synagogue de Boulogne-Billancourt, près de Paris, à l'occasion de la fête juive de Yom Kippour. Une visite dans un contexte sécuritaire particulier, 48 heures après l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo.
Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 7000 policiers et gendarmes étaient déployés sur des lieux symboliques, notamment les synagogues. Une mesure saluée, mais la peur reste bien présente. Diane Berger.
Dans l'entrée de la synagogue, Robert Egenès se félicite des dernières annonces de Gérald Darmanin. Le président de la communauté juive de la ville se sent enfin entendu.
La menace terroriste, comme l'a réaffirmé le ministre ce matin, est toujours très forte. L'attentat de vendredi a eu un effet d'inquiétude sur les communautés juives, puisque vous rappelez qu'en 2015 étaient visés Charlie, puis la police, puis ensuite l'hypercachère, donc les juifs.
Alors, pour venir à la synagogue, Ilan est passé devant plusieurs fourgons de gendarmes. Le jeune de 22 ans le reconnaît, il ne s'y fait toujours pas.
Malheureusement, ça fait déjà plusieurs années qu'on vit sous la menace, et encore plus le jour de Yom Kippour, où il y a vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on renforce la sécurité. D'un côté, on aimerait bien qu'il n'y ait pas besoin de le faire, mais d'un autre côté, vu le contexte actuel, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on est protégé.
Mais quelques mètres plus loin, revêtu d'une chemise élégante et de sa kippa, Jérémy, lui, est beaucoup plus sceptique.
Je sais que l'État met tout en œuvre pour nous protéger. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on est plus protégé? Je ne sais pas.
Malgré son inquiétude, il compte bien venir aux célébrations de ce soir, car Yom Kippour est toujours la célébration la plus importante de l'année pour la communauté juive, composée en France d'environ 500 000 personnes.
Diane Berger dans une synagogue de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Du côté de l'enquête, après l'attaque de vendredi, la garde à vue du principal suspect est prolongée de 48 heures. La police se penche sur le profil de ce Pakistanais de 18 ans. Elle étudie également une vidéo qu'il a réalisée avant l'attentat et dans laquelle il justifie son passage à l'acte sans toutefois prêter allégeance à aucune organisation. 8 personnes en tout sont toujours interrogées par les enquêteurs.
Dans l'actualité de ce dimanche également, Sophie Tussaud, Emmanuel Macron vient de tenir des propos fermes sur la situation politique au Liban.
Oui, au lendemain de la démission du Premier ministre libanais désigné qui a renoncé à former un gouvernement, il affirme avoir honte pour les dirigeants libanais. Le président vient de s'exprimer depuis l'Élysée.
Les forces politiques libanaises n'ont pas souhaité clairement, explicitement, respecter l'engagement pris devant la France et la communauté internationale. Ils ont décidé de trahir cet engagement pris. C'est un mois qui vient d'être perdu. Les responsables politiques libanais ont rendu impossible, par leur sombre manœuvre, la formation d'un gouvernement de mission capable de mener à bien les réformes. Certains ont d'abord préféré consolider l'unité de leur camp plutôt que celle des Libanais dans leur ensemble. Les autres ont cru pouvoir imposer les choix de leur parti et du Hezbollah dans la formation du gouvernement en totale contradiction avec les engagements explicitement pris le 1er septembre auprès de moi. Ils n'ont souhaité faire aucune concession. Le Hezbollah, il ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Et c'est à lui de démontrer qu'il respecte les Libanais dans leur ensemble.
Emmanuel Macron qui donne 4 à 6 semaines au Liban pour la formation d'un nouveau gouvernement.
Revenons maintenant sur les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié l'arrêté qui concerne les fermetures.
Oui, ce sont les bars et restaurants uniquement des villes d'Aix et de Marseille qui fermeront pour 2 semaines à partir de ce soir minuit. Les 90 communes de la métropole Aix-Marseille ne sont donc pas concernées. Une fermeture que contestent les restaurateurs. Pour autant, ils n'iront pas à l'encontre de la décision. Bernard Marty, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône.
Le risque est grand pour le restaurateur, le cafetier, l'hôtelier de manière individuelle. Parce que quand on a fait le choix de rester ouvert, on ne vient pas voir le syndicat des restaurateurs. Moi, je n'ai pas envie de mener mes amis au tribunal et de les voir très embêtés par ce qui pourrait se passer de manière juridique. Donc non, moi, je n'appelle pas à ça. Et je demande à mes adhérents de ne pas prendre ce risque-là, d'être simplement dans le combat, parce que mon but à moi, c'est de créer des conditions de ne pas fermer. À partir de là, On entreprendra des mesures d'ordre juridique ou d'ordre physique. Et donc, toutes ces mesures, eh bien, elles se verront dans les jours qui viennent. Hein. Nous, on ne baisse pas la garde, hein, même si on est fermé. Et puis, il faut se dire la chose suivante. Si on est fermé, on a encore plus de copains pour manifester et pour s'exprimer. Parce que du coup, on n'aura rien à faire.
Bernard Marty, le président de l'UMI des Bouches-du-Rhône.
Et dans 5 minutes sur Europe 1, mon invité, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, il a déposé hier un recours en référé pour restriction disproportionnée de la liberté d'entreprendre, d'industrie et du commerce.
D'autres mesures vont être prises ailleurs en France pour limiter la propagation du virus. À Paris, les bars ne seront plus autorisés à ouvrir après 22h à partir de demain, tout comme à Rennes, où la mesure, loin d'être claire, irrite les professionnels. Charles Guyard.
On ressortait la tête de l'eau.
Après 2 mois et demi d'inactivité totale au printemps et des dettes qui se sont accumulées, les cafés, bars et restaurants rennais avaient pu se refaire une petite santé pendant l'été. Et puis...
Et là, de nouveau, des mesures gouvernementales qui arrivent et beaucoup d'entreprises vont avoir du mal à passer ce nouveau cap.
Ce nouveau cap, il a été annoncé vendredi, c'est la fermeture des bars à 22h à partir de ce lundi. La douche froide pour l'ensemble du secteur, selon Pierre Clovius, il est patron de l'ambassade.
On a une baisse de chiffre qui est assez conséquente pour les bars, 50% estimé puisqu'il faudra arrêter de servir à 21h30. On a des collègues qui se posent même la question de savoir s'ils vont rester ouverts.
Lui ne fermera pas, mais avec un restaurant qui dispose de la licence bar, il va devoir jongler avec les contradictions d'une règle qui permet de dîner en tête-à-tête après 22h, mais plus de trinquer.
Nos clients ne savent pas sur quel pied danser. En réservant à 20h, ils ne seront pas virés du restaurant à 22h. Ils pourront rester à table s'ils ont mangé. Par contre, si quelqu'un arrive à 22h30 pour boire 2 demi ou 2 café d'ailleurs, ils ne seront pas servis.
La mesure, qui concerne 43 communes de la métropole de Rennes, doit durer 2 semaines. Rennes-Charles Guyard, Europe 1.
C'était jour d'élection ce dimanche pour le Sénat. Près de 90 000 grands électeurs étaient appelés à renouveler la moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement.
Une élection au suffrage universel indirect, contrairement aux autres scrutins français. Et on prend la direction du Sénat. Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
Les résultats commencent à tomber.
Et oui Sophie, on commence à avoir les résultats, même si ça prend un petit peu de temps car Covid oblige, il n'y a pas beaucoup de monde pour dépouiller. Alors parmi les résultats très attendus, celui du président du groupe En Marche, François Patriat, qui est réélu ce soir en Côte d'Or. Ça n'était pas gagné après des municipales plutôt ratées pour la Macronie. C'est donc un vrai soulagement pour les marcheurs. Les marcheurs qui peuvent aussi compter sur l'élection du ministre Jean-Baptiste Lemoyne dans l'Yonne. Et on attend encore de connaître le sort de l'autre ministre en lice, Sébastien Lecornu dans l'heure. Autre grande inconnue à l'heure actuelle, les Verts vont-ils parvenir à constituer un groupe au Sénat? Il faut 10 sénateurs pour cela. Ce serait une confirmation de leur bon résultat au municipal, mais il va encore falloir patienter un petit peu pour savoir. Une chose est sûre, la droite majoritaire au Sénat et son président Gérard Larcher ne sont pas en danger ce soir, puisque la droite détient la moitié des villes de plus de 9000 habitants et 95% des grands électeurs sont issus des municipales de mars et juin.
Merci Aurélie Herbemont au Sénat pour Europe 1.
C'était Sophie Tussaud, on vous retrouve à 19h30 sur Europe 1. Alors, côté météo, eh bien, c'est clair, on a sauté à pieds joints dans l'automne, Valérie Darmon.
Absolument Wendy, avec une chute du thermomètre de 10 à 12 degrés selon les régions et les températures qui vont légèrement remonter ce lundi et confirmeront leur hausse de 7 à 8 degrés en milieu de semaine. Avec pour ce lundi, pour des maximales, entre 11 à Rodez et 22 à Bastia, 15 degrés annoncés à Lyon et 17 à Paris. Côté ciel, il sera plutôt dégagé ce lundi à l'ouest, voire ensoleillé, très gris ailleurs, sur l'est et le centre, très couvert, accompagné de précipitations. Accalmie pour tous et un peu moins froid mardi et mercredi aussi, car l'anticyclone va se renforcer sur le sud de la France, apportant un temps plus sec. Les nuages resteront nombreux au nord. Mercredi, ce sera une journée de transition entre la première et la seconde partie de la semaine, parce que la fin de la semaine se dégrade sévèrement, de nouveau, avec du vent et des pluies sur une bonne partie de la France. On y reviendra très largement, bien
possible.
Évidemment.
Merci Valérie Darmon. Le sport revient avec une magnifique nouvelle à la une. Julien Alaphilippe, champion du monde de cyclisme. C'est une première, Jean-François Pérez, pour un coureur français depuis 1997.
Oui, vous avez entendu dans le journal le prédécesseur du Julien Alaphilippe, Laurent Brochard, qui avait revêtu le maillot arc-en-ciel à Saint-Sébastien en Espagne. Pour Julien Alaphilippe, 28 ans, qui a perdu son père cet été, c'est une immense émotion, un rendez-vous qu'il avait coché depuis toujours. Il sera demain matin l'invité de la matinale sur Europe 1, mais voici sa première réaction.
Je veux remercier forcément tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, mais voilà, mon équipe aujourd'hui, l'équipe de France a été très forte. Les sélectionneurs Thomas Vauclair pour la confiance en moi et le plan établi et Et forcément, ma famille, mes proches, c'est le rêve de ma carrière. Et... Voilà, merci.
Voilà, les larmes et l'émotion évidemment de Julien Alaphilippe. Le calendrier s'emballe, hein, ceci étant dit. Dès mercredi, c'est la Flèche Wallonne. Il y sera et Julien Alaphilippe est le double tenant du titre de cette épreuve.
L'actu ce soir, c'est aussi le tennis. Première journée à Roland-Garros.
Pas de surprise chez les favoris, à commencer par la tête de série numéro 1, la Roumaine Simona Halep, facilement qualifiée pour le deuxième tour. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Mention assez bien, on va dire, pour les Français, à commencer par le toujours imprévisible Benoît Paire.
Et oui, Benoît Paire qui vient de se qualifier il y a quelques minutes face au Coréen Kwon, 7-5, 6-4, 6-4. C'est vrai qu'on craignait un petit peu de voir Benoît Paire dégoupiller, s'énerver, s'agacer comme il en a l'habitude, avec beaucoup de vent, un peu de pluie, du froid. Bref, les conditions étaient réunies pour le faire craquer. Il n'a pas craqué. Antoine Wang, autre Français en revanche éliminé en 4 manches par l'Allemand Köpfer. Jérémy Chardy sorti en 5-7 par l'Autrichien Rodonoff, 18 dans la dernière manche. Enfin, en ce moment, c'est un Andy Murray fantomatique qui est mené 2 manches à 0 par Stan Wawrinka, le Suisse, 4-2 dans le troisième set.
Merci Simon Rubin, à plus tard jusqu'à la fin de la soirée puisqu'il y a un toit maintenant, oui. Donc on peut jouer très tard, il y a les lumières, il y a tout ce qu'il faut. Autre rendez-vous de prestige sur notre antenne demain matin 7h40, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Donnez-nous des nouvelles de la 5e journée de Ligue 1 de foot.
Le dernier résultat en date, c'est celui de Lyon à Lorient et au final, Loïc Folio, pas de vainqueur.
Nouvelle contre-performance pour l'Olympique Lyonnais, incapable de convertir sa domination au moustoir. Lyon a passé son après-midi dans la moitié de terrain morbihanaise, mais a cruellement manqué d'inspiration face à des merlus guère plus imaginatifs. Les Bretons ont même ouvert le score contre le cours du jeu par Wissa à la 63e, mais Dubois, au prix d'un exploit individuel, a permis aux Lyonnais de recoller au tableau d'affichage un match nul qui place l'OL en 10e position à 7 points déjà du leader rennais.
Merci Loïc. Pour le reste, Monaco bat Strasbourg 3-2, même score pour Angers face à Brest, et puis 3 matchs nuls, Dijon-Montpellier de partout, Nîmes-Lens 1 partout, Bordeaux-Nice 0-0. Dans moins de 2 heures, le Paris Saint-Germain se déplace à Reims. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Vous êtes déjà au stade de l'Aune, la lanterne rouge face aux champions de France en titre, affiche plutôt déséquilibrée sur le papier.
Oui, exactement, une équipe du stade de Reims, donc bon dernier avec un tout petit point face au Paris Saint-Germain et à ses stars, puisque Paris enfin est au quasiment au grand complet pour affronter cette équipe du stade de Reims, puisque Kylian Mbappé, Neymar, André, Di Maria, encore Mauro Icardi seront présents ce soir au stade Auguste de l'Aune. Mais cette équipe de Reims a aussi une particularité, et bien elle a remporté ses 2 derniers matchs face au PSG. Alors, est-ce que la passe de 3 aura lieu ce soir au stade Auguste de l'Aune ? Eh bien, on le saura à partir de 21h sur Europe.
Merci Julien. Reims-PSG à vivre en direct intégral donc. On aura un invité champagne ce soir dans Europe 1 Sport. C'est Jean-Pierre Caillot, le président du stade de Reims, qui sera avec nous tout à l'heure.
Jean-François Pérez pour les sports. Merci, à tout à l'heure, 20h.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Juste après la pause, on retrouve un homme de territoire à la manœuvre. Renaud Muselier veut protéger l'économie de sa région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a obtenu une inflexion d'Olivier Véran sur les mesures sanitaires. Il est notre invité sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h17 sur Europe 1 et en ce dimanche soir, je reçois le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Renaud Muselier.
Bonsoir, Wendy Bouchard.
Un homme au combat depuis 3 jours. Pourquoi Renaud Muselier ? Pour alléger des mesures restreignant injustement pour vous la liberté d'entreprendre, notamment à Marseille et à Aix-en-Provence ?
On a déjà bien avancé quand même, puisqu'on était dans une première décision qui est venue de façon très brutale et verticale, oui. De 15 jours à 8 jours, avec une clause de revoyure. Donc ça nous permet de pas être immédiatement sanctionné. Alors même si on conteste tout ça, il y a aussi
Renaud Muselier qu'on va retrouver
une crise sanitaire. Oui, oui. Et on est face à un double problème pour le gouvernement et pour Monsieur Véran. Il y a allô.
On vous entend.
Oui.
C'est bon.
Et il y a une
Renaud Muselier qu'on va retrouver dans un instant. On va peut-être vous rappeler, Renaud Muselier, parce que vous nous parliez de décision verticale, cette décision venant de Paris. Est-ce que vous êtes toujours là, Renaud Muselier ?
Je suis toujours là, vous excusez-moi, toujours pourtant là. Je ne bouge pas.
Non, on va vous rappeler en téléphone classique, si vous voulez bien, Naïma. Le temps peut-être de faire une petite pause et on vous retrouve tout de suite. La liaison sera parfaite, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Avec Renaud Muselier que nous retrouvons, car parfois la technique est l'ennemi de la technique. Rien ne vaut un bon téléphone. Bonsoir Renaud Muselier. Bon, je récapitule. Bonsoir. Puisque vous nous parliez de cette avancée. Vous avez obtenu cette clause de revoyure dans 7 jours, des inflexions de la part du gouvernement. Vous me parliez de cette décision verticale. Votre colère venait donc aussi du fait que, du sentiment, disons, que Paris avait décidé pour vous de ce qui était la meilleure mesure à appliquer dans votre territoire.
C'est surtout, on avait eu un contact avec M. Castex qui avait fait une décentralisation de crise. Nous avions travaillé en son temps 9 jours avant pour apporter des mesures de restriction assez importantes quand même, puisqu'on était dans un premier temps à 20h pour les bars, puis on est passé à 23h. J'avais même demandé d'aller plus loin à l'époque en disant qu'il faut trouver des solutions complémentaires restrictives pour les mariages, les enterrements, la fermeture des plages le soir pour les regroupements ou les parcs, qui n'avaient pas été suivis. Et j'avais demandé parallèlement à ça des mesures très strictes de contrôle des tricheurs, puisqu'il y a un certain nombre d'établissements qui ne respectent en aucun cas les gestes barrières. Et cela, c'est très facile de les dépister et de faire une fermeture administrative.
Voilà, qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas opposé aux mesures sanitaires, bien au contraire, c'est ce que vous nous dites, c'est le médecin aussi qui parle, de formation.
Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir d'un côté une incidence, un taux d'incidence qui diminue grâce à ces efforts, et en même temps l'effet qui est décalé sur 10 jours fait en sorte qu'on a un afflux en réanimation, et surtout cet effet en réanimation entraîne l'arrêt de chirurgie cardiaque ou de neurochirurgie. Et ça, c'est pas possible. Mais à côté de ça, on a injecté dans la première vague, avec l'État d'ailleurs et les collectivités locales, près de 750 millions d'euros pour 400 000 entreprises, pour sauver près de 25 000 salariés. Et on se retrouve dans un rebond où, du jour au lendemain, on dit on ferme tout. C'est pas possible.
Alors, mais comment vous expliquez, par exemple, Renaud Muselier, que le gouvernement dit devoir organiser des transferts de patients infectés à Marseille ou à Lyon vers les hôpitaux d'Île-de-France pour éviter l'annulation de certaines opérations urgentes? C'est une information du Journal du Dimanche ce matin.
Oui, mais cette information ne correspond pas à la réalité. C'est aujourd'hui un plan envisagé, voire envisageable, mais qui n'est en aucun cas mis en place. Donc il y a aujourd'hui la possibilité de continuer à opérer, mais il y a une surchauffe incontestable avec une limite sur les lits non-Covid. Sur les lits de réanimation Covid. Mmh. Et donc là, il y a un risque, mais c'est une hypothèse qui n'est pas engagée, en tout cas, du tout.
Hier, je recevais sur Europe 1 Samia Ghali considérait que la fermeture des bars et des restaurants n'allait pas changer le cours de l'épidémie. Manifestement, sur certains aspects, là, vous la rejoignez, mais elle allait jusqu'à dire pourquoi pas un reconfinement général si c'est si grave. Est-ce que vous le pensez aussi, Renaud Muselier, au fond?
Non, mais... Écoutez, moi, je ne suis pas Samia Ghali, c'est à elle qu'il faut poser des questions. Je ne suis pas là pour commenter Samia Ghali. J'ai en responsabilité la région. On est allé chercher 14 millions de masques à la première vague. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a fait exactement l'inverse du conseil scientifique et aujourd'hui, demande au gouvernement de faire comme on avait fait au début. On voit bien la difficulté pour les gouvernants de s'adapter à un virus qui lui-même mute. Alors aujourd'hui, il y a la nécessité de, en aucun cas, engager la désobéissance civile. Quand on conteste une règle, c'est-à-dire l'arrêté préfectoral, il faut le faire dans les règles, c'est ce que je fais.
Oui.
Puis le droit tranchera. Et il faut respecter le droit dans un pays, sinon c'est l'anarchie.
Et c'est ce que vous demandez aussi, évidemment, à vos administrés, contrairement à ceux qui ont pu entendre hier Samia Ghali sur notre antenne. Vous venez de déclarer que le Conseil scientifique a fait faire beaucoup de bêtises pendant la première vague. Auquel pensez-vous, Renaud Muselier?
Il me semble bien que le conseil scientifique nous a expliqué toute la journée, matin, midi et soir même pratiquement, puisqu'ils n'étaient plus conseillers, mais ils étaient commentateurs, où on nous a expliqué qu'il ne fallait pas de masque dans un premier temps, dans un temps il ne fallait pas tester. Dans un troisième temps, il faut rester à la maison et prendre du Doliprane et appeler quand on était en très grande difficulté, un SAMU qui était submergé. Bon, nous on avait testé massivement plus de 200 000 personnes, masqués pour le retour à la vie, 14 millions de masques, je le rappelle, traiter le volet économique pour le retour à l'entreprise et confiner, puisque nous avons été très respectueux des directives nationales. Mmh. Mais là, on ne va pas écouter de la même manière qu'à la première vague un conseil scientifique qui a fait et qui a dit un certain nombre de bêtises. Je viens de vous en donner quelques-unes.
Oui, bon, là, c'est Olivier Véran qui a pris acte de cette décision, qui vous l'a imposée. Vous avez renégocié en l'espèce, Renaud Muselier. Vous vous reverrez donc dans 7 jours pour voir si ces mesures ont commencé d'être efficaces ou non. Hier soir, vous avez déposé un recours en référé pour restriction disproportionnée de l'exercice de la liberté d'entreprendre, d'industrie et du commerce. Donc, vous poursuivez encore ce combat. L'idée, c'est que la semaine prochaine, ces bars et ces restaurants puissent rouvrir, Renaud Muselier?
L'idée, c'est d'un côté arriver à aider les blancs, c'est-à-dire les services hospitaliers, de façon à ce qu'ils puissent continuer à travailler pour les patients qui ont besoin d'être traités, qu'ils soient Covid ou non Covid. Et parallèlement à ça, c'est de ne pas arrêter la totalité de l'économie. J'ai prévenu le ministre, les deux ministres d'ailleurs, qui étaient M. Véran et M. Griset. Je travaille avec M. Griset pour les aides complémentaires, mais les aides complémentaires ne vont pas forcément dans le sens de ceux qui veulent travailler. Ils veulent travailler, ils ne veulent pas être assistés.
Oui.
Et en ce qui concerne l'évolution de M. Véran, je l'en remercie, il y a une évolution significative qui est et qui prouve bien quand on discute, on peut trouver des solutions. De 15 jours, on est passé à 8 jours et on fera l'état des lieux sur des chiffres qu'on pourra comparer parce qu'aujourd'hui, chacun donne sa version.
Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt aussi à établir des contrôles ciblés dans les établissements, voire même à donner l'exemple? J'entends faire respecter le port du masque au restaurant, sauf au moment de la consommation, dans les restaurants et dans les bars, ce qui n'est aujourd'hui pas appliqué parce que pas bien compris par les Français.
Bah, je pense aussi qu'il ne s'est pas bien compris, mais c'est très bien compris par quelques restaurateurs qui profitent de pas respecter les règles sanitaires d'éloignement, enfin de distanciation telles qu'on les connaît, pour faire du chiffre d'affaires complémentaire,
oui.
Alors que l'établissement à côté ne bouge, travaille, respecte ses engagements et respecte la législation.
Et ça, c'est valable dans toutes les grandes villes. Hein. Donc, vous voulez du contrôle ciblé, par exemple, pour remettre au pas?
Je veux des contrôles des tricheurs. Et ceux qui trichent, ils sont fermés. Voilà. Il y a des arrêtés de fermeture qui peuvent être faits. Et cela, c'est ceux-là qui font des bêtises. Ce n'est pas les restaurateurs ou les cafetiers qui respectent la distanciation et qui, de fait, se retrouvent avec une double peine.
Mmh.
Ils n'ont pas triché pendant le moment où ils pouvaient avoir plus de clientèle et ils se trouvent fermés à cause du voisin qui n'a pas respecté la réglementation. Et donc, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça et faire des contrôles avec des fermetures administratives d'établissements qui trichent.
Un collectif de médecins revendique de nouvelles mesures radicales dès ce week-end pour avoir des vacances de la Toussaint sereines. Une fois de plus, vous êtes médecin de formation, Renaud Muselier. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux pour considérer justement qu'on n'a pas été assez clair dans la précision de ces mesures et notamment dans le port du masque partout, sauf à la maison, lorsqu'on est en situation de rencontrer les uns les autres?
Vous savez, je me méfie quand même beaucoup maintenant des collectifs de médecins les uns derrière les autres. On a pu voir pendant cette période, notamment dans la première vague, des scientifiques se dire quelques amabilités sur les plateaux télé qui ne font en sorte que créer un émoi dans une population qui cherche une solution. Et donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure formule. Il faut donner des moyens au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Je ne suis pas absolument convaincu que le collectif des scientifiques de ce jour n'ont pas été le collectif des scientifiques d'hier qui disait l'inverse.
Vous cherchez en tout cas des solutions pour votre territoire comme président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, vous étiez avec nous sur Europe 1 en direct. Merci, à bientôt.
Merci à vous.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Voici le journal de l'environnement que vous présente chaque week-end Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy. Bonsoir.
Alors
à tous.
Merci de nous aider peut-être à alléger notre vie parce que lorsqu'on a un déchet dans la main, c'est un véritable casse-tête parfois. Dans quelle poubelle la mettre? On va prendre l'exemple d'une boîte de conserve, d'une petite brique de crème fraîche. Tout ça se recycle même si c'est sale. Donc il ne faut plus hésiter, sinon une montagne de déchets passe à côté d'une deuxième vie, très clairement Virginie Salmen.
Oui, on peut effectivement recycler beaucoup plus. Et donc éviter d'envoyer à l'incinérateur des tonnes d'emballages. Alors, par exemple, donc, tout ce qui est sale, les œufs, la boîte d'œufs. D'abord, si vous avez un compost, évidemment, c'est encore le plus simple. Ça se dégrade très, très vite.
D'accord.
Au compost. Mais si ce n'est pas le cas, et si elle est pleine de jaune ou de blanc d'œuf, mettez-la au recyclage sans hésiter. Elle va subir plusieurs étapes de nettoyage et de filtrage pour éliminer les colles, les encres. Et donc, ces résidus alimentaires vont disparaître sans aucun problème.
D'accord. Je reviens sur l'histoire des boîtes de conserve. Si elles sont encore pleines d'huile, qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, c'est la même logique. Hein. Votre boîte de conserve, une fois ramassée dans la poubelle de tri, elle est envoyée dans une aciérie et elle va être mélangée à la fonte en fusion, donc à plus de 1000 degrés. Donc la chaleur va se charger de laver tout ça.
Donc on vide simplement, on n'est pas obligé de laver.
C'est ça. Mmh. C'est la même chose pour les bocaux en verre. D'abord, avant de recycler, on peut penser encore une fois à les réutiliser, par exemple, s'ils sont assez grands pour emporter un plat pour le déjeuner au bureau.
Bien
c'est
sûr.
Encore mieux que de jeter,
oui.
Même au recyclage. Mais le verre aussi est traité à haute température. Il va être fondu au four à 1500 degrés. Idem pour tout un tas de choses, en fait, qu'on hésite souvent à mettre au recyclage parce que l'emballage est sale. Comme toutes les sortes de briques, briques de lait, briques de soupe, les boîtes de pizza qui sont sales, tout ça doit être vidé donc quand même, mais ni rincé ni lavé.
Très bien. L'enjeu en volume de recyclage, si vous nous en parlez, c'est qu'il est assez important pour mériter justement le lancement aussi d'une campagne de communication sur le
oui,
sujet.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que parmi les raisons pour lesquelles une part des Français ne trie pas, eh bien, il y a en tête l'argument de l'emballage sale. C'est un gros frein. Hein, on n'ose pas le mettre au recyclage.
Parce qu'on n'ose pas trop salir sa cuisine, s'il faut dire
il y a
ce qu'il
y a. Aussi,
hein,
son, bac, son propre bac de recyclage,
voilà.
Effectivement.
Mmh.
Alors, Citeo, l'entreprise chargée de recycler les emballages ménagers et les papiers, lance cette campagne nationale qui démarre aujourd'hui et que vous allez sûrement voir à la télévision. télévision, sur Internet et dans la presse écrite.
Oui.
Le but, c'est d'éviter d'incinérer ou d'enfouir les tonnes de déchets qui pourraient être recyclés, justement à cause de consignes de tri trop complexes. Mm-hmm. Même si vous connaissez sans doute cette maxime, Wendy, le meilleur déchet, c'est évidemment celui qu'on ne produit pas.
On va la méditer, cette maxime. Le Journal de l'Environnement, c'est avec vous chaque week-end, Virginie Salmen. Merci.
Bonsoir.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Planète Sauvage.
Vous êtes sur Europe 1. Comme chaque dimanche soir, l'actualité des animaux nous intéresse 19h33 avec la nouvelle enquête de l'association L214 qui dévoile les images d'un élevage de faisans et de perdrix à Missé. Nous sommes entre Angers et Poitiers. Bonsoir Brigitte Gauthier.
Bonsoir.
Élevage de faisans et de perdrix, vous qui êtes directrice de L214, jusque-là, vous me direz, c'est du classique. Sauf que ce que vous avez vu et ce que vous nous révélez, c'est que ces animaux, entassés par milliers dans ces bâtiments, sont destinés à la chasse.
Oui, bah on est au croisement en fait de l'élevage intensif et de la chasse. On a découvert plus ou moins que effectivement il y avait des animaux qui étaient élevés spécialement pour être chassés et pour être chassés dans les premières heures finalement après leur lâcher parfois ou à quelques semaines. Là, on est sur Gibaud Vendée, donc le leader qui détient à peu près 300 000 faisans et perdrix reproducteurs et qui produit chaque année 20 millions d'œufs à couver ainsi qu'un million d'oiseaux prêts à lâcher. Alors sur plusieurs sites, là on a pu avoir les images d'un site et du coup, enfin voilà, on se rend compte en fouillant un petit peu que 9 faisans sur 10 qui sont tués à la chasse aujourd'hui sont issus d'élevage. En fait, ils lâchent à peu près 14 millions de faisans chaque année dans la nature, et ce sont des oiseaux qui sont complètement inadaptés parce que élevés dans des conditions sans les adultes, sans devoir forcément chercher leur nourriture. Donc les reproducteurs sont gardés dans ces cages avec ces couvre-becs là pour que les agressions entre les uns et les autres, parce que la promiscuité elle est folle, soit limitée, la gravité soit limitée. Ensuite, on a ces oiseaux qui sont élevés en bâtiment le temps qu'ils grandissent un peu, puisqu'ils peuvent pas grandir dans un nid avec des adultes. Et ensuite, les volières avant d'être lâchés dans la nature. Et en fait, on se rend compte, les statistiques qui sont soulignées par l'ANSES qui a fait une étude, c'est que 50% des faisans sont tués par les chasseurs dans les premières 48 heures. 30% sont prédatés. Ils sont complètement inadaptés. Enfin, ils font
à la vie,
attention,
en pleine
c'est
nature.
Souvent à la campagne que vous klaxonnez des oiseaux qui sont égarés même sur la route. Et puis les survivants, enfin il n'y en a pas tant que ça, puisque avec 15 millions d'oiseaux lâchés chaque année, on n'est pas envahi de faisans, il y en a à peine 500 000 sauvages aujourd'hui.
Alors je vous remercie l'un et l'autre d'avoir accepté d'échanger, voire de débattre sur ce sujet, parce que vous allez réagir aussi à cette vidéo. Éric Camoin, vous qui êtes chasseur et président de l'Association nationale de défense des chasses traditionnelles. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous n'ignoriez pas l'existence de ce type d'élevage, c'est une réalité, Éric Camoin?
Mais on sait très bien qu'il y a des élevages, mais là, c'est pas le problème.
On ne le savait pas forcément. Oui.
Non, mais cette vidéo, vous le savez très bien que L214 vise à choquer le public. Voilà, pour adhérer, pour qu'ils veulent faire adhérer à leur diktat. C'est pas de chasse, pas d'élevage, ils veulent plus de boucherie, pas de viande. C'est ça.
Ce qui peut nous chasser, Éric Camoin, c'est qu'on vous dit régulateur de la nature. Or, ce sont des oiseaux qu'on élève artificiellement pour ensuite vous les offrir comme cible vivante. C'est ce qu'on comprend en tout cas.
Oui, il y a des élevages. Il y a des élevages, oui, on élève, il y a de la reproduction, parce que ces oiseaux-là partent aussi pour la reproduction. On les lâche au printemps pour qu'ils se reproduisent. C'est pas de l'élevage le jour même et boum, on tire. C'est pas ça.
Mais vous allez les élever pour les tuer.
Mais bien sûr, mais la chasse fait partie prenante de notre vie. Que l'on arrête. Moi, ce qui me gêne là-dedans, encore une fois, c'est que on avance des mots, stress, alors qu'il y a aucune, ça repose sur aucune étude scientifique, les propos de Monsieur Rigaud. C'est de l'idéologie, c'est du bourrage de crâne. Ils ont dévoyé le terme d'être vivant. Qu'ils ont transformé en humain, ils mettent l'animal au même niveau que l'homme. Quand vous regardez la vidéo, les oiseaux qui tapent soi-disant dans les filets. Bien oui, il y a la présence d'un élément étranger avec une caméra qui passe sous les volières, qui les filme à l'intérieur.
Donc les animaux sont apeurés.
Laissez-moi parler. Effectivement, ça provoque un affolement des oiseaux. Et ils ont oublié d'être bêtes, les animaux. Une caméra, c'est un danger. Donc voilà, on veut faire passer...
Ces oiseaux, ils sont dans des cages. Oui, ces oiseaux sont dans des cages. Ils cherchent à s'envoler parce que ce sont des oiseaux. Et d'ailleurs, on remarque que ce ne sont pas des cages rigides sur le dessus, mais bien des filets, parce que justement, c'est un comportement courant de ces oiseaux d'essayer de s'envoler. Et ils se blesseraient encore plus gravement si le plafond de leur cage... De leur cage grillagée était dure. Donc, et on voit au loin aussi, quand vous regardez les plans éloignés, il n'y a pas de caméraman ou je ne sais pas quoi devant. Et puis bah, les ouvriers, ils passent aussi chaque jour pour regarder les oiseaux. Donc c'est un comportement qui peut être normal dû à un affolement ou simplement le désir de voler. Ce sont des oiseaux et là, ils sont gardés dans des cages petites dans lesquelles ils ne peuvent pas voler. Enfin, c'est juste tout simple et c'est très compréhensible.
Merci Brigitte Gauthier, directrice de L214. Erika Moin, juste voilà, qu'on soit bien clair. Donc vous connaissez, ces élevages existent. Je voudrais juste que vous me répondiez sur l'objectif de régulation de la nature. Comment faire comprendre ce discours-là alors qu'on élève des animaux pour les faire tuer ensuite en pleine nature par les chasseurs, si cette logique est exacte?
Non mais attendez. Il y a la chasse, il y a les oiseaux qu'on relâche pour la reproduction et pour la chasse. Oui, on chasse, oui, on tire des animaux, oui.
Mais pour 10 faisans chassés, 9 proviendraient d'élevage. Ce sont des chiffres que vous accréditez?
Non, je ne connais pas les chiffres, donc je ne vais pas raconter n'importe quoi comme c'est le faire la L214. Je ne le connais pas, le chiffre. Mais oui, on lâche des faisans, on lâche des perdrix, même pour la reproduction. Mais heureusement.
Merci.
Mais à un moment, il faut revenir quand même à la réalité de cette vidéo. J'aimerais quand même qu'on parle de cette vidéo, parce que si vous ne voulez pas parler...
Si on a parlé, il y a une musique
pesante sur cette vidéo.
Il y a une mise en scène, bien sûr. C'est aussi dans l'intérêt de L214 de faire passer les messages.
On veut endormir le peuple pour lui dicter son raisonnement et lui imposer son régime alimentaire. Parce que la base, c'est ça.
Ils vont regarder, les auditeurs, la vidéo. Si vous voulez bien, Eric Camoin, ils se feront leur propre idée vidéo L214. Merci de vos échanges ce soir sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une chanson dans la tête.
Pour vous accompagner en anecdotes et en chansons chaque week-end, notre spécialiste Fabien Lecoeuvre. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
Voici l'album CD qu'on vous présente ce soir sur les réseaux sociaux aussi. Comme ils disent, avec 1 euro par disque reversé à la Fondation Le Refuge.
Exactement Wendy, à l'initiative de Mathieu Moulin, un formidable double album chez Marianne Melody qui rassemble en tout cas 45 chansons qui abordent l'homosexualité en chanson avec finesse et subtilité. Alors, sujet encore tabou il y a quelques années, les premiers artistes qui ont eu l'audace de chanter ce thème dans une société encore rigide au cœur des années 60 et au début des années 70 sont Fernandel, Régine, Henri Tachant, Bobby Lapointe, Dev, Michel Delpech, mais bien évidemment, celui qui fera grandir notre société avec son immense et incontournable succès, c'est Charles Aznavour en 1972.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte.
C'est en vacances qu'Aznavour a eu l'idée de cette chanson superbe.
C'est vrai Wendy, en vacances, en Suisse, en observant Andouchka, un ami décorateur homosexuel bien sûr. Andouchka n'était pas le seul dans l'entourage de Charles Aznavour à préférer la compagnie masculine. Le secrétaire particulier et chauffeur du chanteur était également homosexuel. Alors Charles Aznavour était très régulièrement confronté au quotidien de ses amis gays. Ce qui l'étonnait toujours, il m'en a parlé, c'est que ces garçons tombaient souvent amoureux d'hommes qui aimaient les femmes, souvent mariés, ce qui provoquait forcément bien sûr de terribles déboires chez eux et dont Charles Aznavour était souvent le témoin. Alors, de fait, inspiré par l'observation de son entourage, Charles Aznavour écrit paroles et musique, de comme ils disent, l'histoire, on va dire, de souligner la stigmatisation dont les homos sont si souvent victimes en ce début des années 70.
Je suis un homo, comme ils disent, quelle beauté de ce texte. Après cela, toutes les générations d'artistes vont s'emparer de ce sujet très fort de société. Les mélodies, les paroles, toujours sont bouleversantes avec ce titre de Starmania. Nous sommes en 1978.
Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute, même si je sais qu'il ne m'aimera jamais.
Et l'interprétation de Céline Dion dans cet opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger pour Starmania, il crée justement le personnage de Ziggy, un garçon gay qui vend des disques dans une boutique de cette, et cette chanson, en tout cas interprétée à la base par Fabienne Thibault et reprise en 1993 par Céline Dion, se classe, Wendy, à la deuxième place du top 50 durant tout l'été 1993.
On comprend, on reste dans les décennies 90 avec le groupe espagnol Mecano qui a aussi connu un grand succès au top 50, cette chanson sur l'homosexualité féminine.
Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elle sort.
Alors, une chanson espagnole à l'origine, hein, Wendy, est traduite en français par l'auteur Pierre Croz. Alors, avec cette version française de leur chanson, le groupe Mecano est même resté 22 semaines au top 50, dont 3 semaines à la première place au mois d'octobre 1990.
C'était très fort d'ailleurs de faire deux versions de cette même chanson. À peu près à la même période, c'est Michel Sardou qui consacre aussi une chanson au sujet. Le privilège.
Est-ce une maladie ordinaire, un garçon qui aime un garçon? J'essaierai de choisir mes mots, mais comment peindre un sentiment? Ce que je sais n'est pas nouveau, je me connais.
Michel Sardou.
Oui, au début des années 90, dans une France qui est encore bien loin du mariage pour tous, Michel Sardou aborde donc le thème de l'homosexualité dans une chanson intitulée Le Privilège. Alors même si en France, depuis 1982, l'homosexualité avait été dépénalisée, c'est seulement le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé la retire de la liste des maladies où elle figurait, vous imaginez, comme un trouble mental.
1990, faut le redire. Quand même.
Ouais, cette décision interpelle Michel Sardou qui décide alors de ressortir de ses tiroirs une ébauche de chansons consacrées à l'homosexualité. Le Privilège restera quand même dans le célèbre top 50 d'Europe 1 pendant 9 semaines entre le 16 février et le 13 avril 1991.
Dans une chanson, dans la tête, Lara Fabian a elle aussi consacré des chansons à la différence.
La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance.
On est en 1999 avec ce titre de Lara Fabian.
Exactement, une chanson, très belle chanson sur la musique de Rick Allison qui prône la tolérance et qui a eu beaucoup de succès. Texte de Lara Fabian, je précise.
Oui, la différence, ça me fait penser à l'un des slogans du refuge, justement. On ne choisit pas sa différence et on travaille sur la responsabilité aussi des parents à accompagner cette différence de ses enfants. Plus proche de nous, c'est Angèle qui a également consacré une chanson à ce thème.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer.
Et oui, sur le premier album, en tout cas studio, paru en octobre 2018, il y a une chanson sans équivoque, Ta Reine, qui parle de l'amour entre deux femmes. Et depuis le 10 août dernier, Wendy, cette chanson est devenue autobiographique.
Et oui.
Puisque Angèle a officialisé sur Instagram justement sa relation amoureuse avec l'humoriste et youtubeuse, on va dire, Marie Papillon. La reine d'Angèle s'appelle donc Marie. Et on leur souhaite, bien sûr, beaucoup de bonheur.
C'est pas trop accepté, ça l'est heureusement de plus en plus. Ce double album, comme ils disent, dont une partie des bénéfices ira à la fondation Le Refuge. Je voudrais qu'on termine cette chanson dans la tête avec une très très belle chanson écrite par Patrick Loiseau à Dave. Vous nous en dites quelques mots avant qu'on ne l'écoute. Ça s'appelle La petite fille aux deux papas.
Oui, les deux papas sont bien sûr Marc-Olivier Fogiel et François Roléan, grand reporter d'ailleurs, qui ont eu deux filles, deux magnifiques filles, Lily et Mila, dont d'ailleurs Dave et Claire Chazal sont les parrains et marraines. Mmh. Et bien sûr, comme ça touchait beaucoup Dave, cette situation, eh bien, il en a fait une merveilleuse chanson qui leur est dédiée.
Chaque jour, elle avance dans la vie à grands pas et commence la danse des commandes et pourquoi. Elle apprend tous les gestes, elle découvre les mots, les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau. Elle sourit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas, comme ils disent.
La petite fille aux deux papas.
La petite fille aux deux papas.
Comme ils disent, voilà, c'est une des chansons présentes au cœur de ce double album.
Comme ils disent, absolument. Chez Marianne Mélody.
Oui, un euro reversé à la fondation Le Refuge.
Absolument.
Qui en 2020 encore accueille tous les jours des jeunes qui ont entre 14 et 25 ans, qui sont rejetés par leur famille, chassés de leur maison. C'est ça aussi la réalité, la triste réalité de cette homosexualité.
C'est bien d'en parler en tout cas.
Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine, si l'actualité nous permet, on parlera de Renault et puis les animaux en chanson, puisque l'actualité sur la sortie du film Polly le mercredi suivant.
Merci Fabien Lecoeur.
À très vite.
Chanson dans la tête sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Jusqu'à 20h, je vous laisse avec Mathieu Béliard et ses éclaireurs. Nouveau rendez-vous en podcast. Comment se penser demain dans la nature? Il reçoit la petite fille du commandant, Cousteau. C'est elle qui nous sert de guide jusqu'à 20h ce soir.
Chronopost, aux côtés des entrepreneurs. Les projets de développement hors de nos frontières se font rarement à la légère ou en solo. Pour toutes les PME françaises, Chronopost est le bon partenaire. Avec Chronopost, les entreprises ont l'assurance de bénéficier d'un accompagnement expert, de procédures éprouvées et de solutions d'expédition souples et compétitives. Force de proposition et solidaire, nous sommes à leur côté en France et à l'international. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international.
Une question docteur Lemaire, médecin esthétique partenaire de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Comment lutter contre le relâchement cutané?
En cabinet médical, nous pratiquons le lifting par injection. Une technique dont Filorga s'est inspirée pour développer Lift Structure Radiance, un soin cosmétique rosé qui lisse les traits et illumine la peau jour après jour.
Et ça marche?
Oui, cela a été testé sous contrôle médical. Lift Structure Radiance agit dès 7 jours.
Lift Structure Radiance, le soin liftant et fait bonne mine. En ce moment, pour deux produits Filorga achetés, dont un soin visage, un mésomasque 30 ml offert. Détails sur filorga.com.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Tous les matins sur Europe 1, il vous éclaire dans ce monde qui change, mais le dimanche soir aussi, il est avec nous. Bonsoir Mathieu Béliard.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes et à tous.
Avec cette série de podcasts Les Éclaireurs, qu'on peut retrouver dès maintenant sur le site europe1.fr, vous prenez le temps de recevoir des invités qui nous font réfléchir sur ce monde qui nous entoure. Et cette semaine, vous avez choisi un prénom, mais aussi un nom, une jeune femme qui nous entraîne en Amazonie. Racontez-nous.
Céline Cousteau, c'est la petite fille de... Alors imaginez Céline Cousteau qui est une aventurière, une documentariste comme son grand-père. Elle nous raconte l'Amazonie, les peuples d'Amazonie directement menacés, sa colère aussi à l'égard de Jair Bolsonaro et les enjeux finalement pour la planète, la respiration, l'oxygène, pour ces populations qu'on risque de voir disparaître et toute la culture que ça implique qu'on est en train de sauvagement assassiner. Et puis, Céline Cousteau, c'est aussi imaginez une jeune fille qui aurait grandi sur la Calypso, qui aurait grandi en voyant son grand-père avec les plus grands de ce monde, avec des artistes, avec des scientifiques. C'est ce témoignage-là qu'elle nous apporte, ce monde d'après dont on a beaucoup parlé.
Oui, elle, c'est ce monde après son grand-père.
Voilà, elle essaye de raconter quelque part à la génération de son grand-père qu'aujourd'hui, témoigner de la situation, montrer les images, ça ne suffit plus, qu'il va falloir un peu passer à l'action. C'est son message.
On va être dans ce podcast entre aventure, ethnologie, découverte du monde.
Un peu de science aussi, un peu de science évidemment. L'intérêt de l'Amazonie pour la planète entière. Ce qui est fascinant dans le livre de Céline Cousteau et dans son témoignage, c'est cette idée que tout est connecté. Cette idée que quand on fait mal à l'un, on fait mal à l'autre, et que quand on fait du bien quelque part, on se fait du bien à soi-même aussi.
L'interdépendance du vivant.
L'interdépendance du vivant et de nous sur cette planète finalement.
Alors, elle est plus dans les forêts que dans les océans, comme était son grand-père.
Oui, beaucoup plus. Elle, c'est l'Amazonie très clairement, la descente du fleuve Amazon, la rencontre de ces populations qui, pour certaines, n'ont pas vu l'homme blanc depuis des décennies. Oui. C'est un peu cette découverte, ce monde-là. Et puis, dans ces tribus amazoniennes, on envoie de temps en temps un enfant à la ville pour essayer de réussir, pour essayer de témoigner. Et puis on découvre aussi le choc des cultures.
Alors on va découvrir cet itinéraire avec vous. Petit extrait ce soir et dans la foulée, le podcast dans son intégralité, Les éclaireurs avec Céline Cousteau et Mathieu Béliard. Écoutez.
Vous dites, je sais que les indigènes peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ?
Moi, quand j'y suis, à chaque fois, je me ressource de cette idée que, premièrement, la vie est un cercle complet, qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tout petit. Et il faut pas l'oublier, ça. Des fois, on se croit tellement important et en fait, on n'est rien. Mais en étant rien, on est beaucoup parce qu'on contribue à une idée communale plutôt qu'une idée individuelle.
L'Amazonie brûle et c'est une question qui concerne le monde entier. Parce que c'est aujourd'hui une source de biodiversité. Ça concerne le monde et ça concerne la France.
Pour moi, c'est une évidence que tout est interconnecté. Donc, il faut des fois que je me rappelle à l'expliquer. Plus ou moins 20% de notre oxygène vient de l'Amazonie. Donc il faut compter une respiration sur 5. Et cette cinquième inspiration, elle vient de là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe si l'Amazonie est détruite ? Cette cinquième inspiration, on ne l'a plus. On ne peut pas vivre. Et c'est une façon peut-être très basique de réduire cette idée de l'interconnexion avec tout sur cette planète. Donc les gens qui sont là-bas, c'est nous. Cette Amazonie, c'est nous.
Je voudrais vous poser cette question. Il y a cette ouverture dans le livre sur le débat à proprement parler juridique, de savoir s'il faut reconnaître, par exemple, l'écocide, si un crime contre la planète est un crime contre l'humanité. Vous ouvrez cette réflexion-là.
J'ouvre cette réflexion et je pense que c'est important d'avoir ce discours et vraiment d'essayer de comprendre comment faire, parce que c'est une idée philosophique. Mais oui, je pense que le crime contre la nature, c'est crime contre l'humanité. Parce que si on dépend de cette nature pour vivre, l'eau, l'air, la nourriture, est-ce que c'est donc pas un lien direct à faire ? Si on détruit un écosystème sur lequel on dépend, est-ce que c'est pas justement un crime contre notre capacité de vivre ?
Céline Cousteau, je vais vous montrer une image, je vais vous demander de la décrire et ensuite de me dire ce qu'elle vous inspire.
Alors là, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil.
É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco.
Ça m'inspire pas du tout, malheureusement. Bolsonaro, comme beaucoup d'autres personnes, mais d'une façon beaucoup plus flagrante, et je vais peut-être dire un mot qui est un peu fort, mais je pense que c'est un criminel. Il a aucun respect pour l'environnement, aucun respect pour les peuples. Du Brésil, les peuples amazoniens, et je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Je vais dire que Jair Bolsonaro, plutôt que me rendre peureuse, il me donne de la force pour me battre encore plus, parce que je vois ça et je me dis non, je ne laisserai pas faire. Il a une vraie volonté de détruire, et il le dit, il est transparent, on ne peut pas le nier, donc ça ne vient pas que de moi. Il ne pense pas que les peuples indigènes devraient avoir des droits. Et il pense qu'on devrait complètement exploiter l'Amazonie.
Et il est tenu, on le sait, il a été soutenu dans son élection par les lobbies agricoles qui ont besoin de déforester.
Tout à fait. Le lobby agricole, et malheureusement, on y est tous liés. Le soja, l'huile de palme, le bœuf, bah, tout ça s'est exporté, entre autres, en Europe. Nous avons le pouvoir, en tant que consommateurs, de prendre de meilleures décisions. Donc c'est à nous aussi de, entre guillemets, voter et de prendre des décisions et faire des choix qui sont plus intelligents.
Si nous nous acharnons à mettre l'océan en boîte de film, vous savez que nous tournons comme des dingues, absolument. Et si on se hâte de faire tout ça, c'est un petit peu pour mettre en boîte, pour préserver des choses qu'on risque de ne plus jamais revoir.
Céline Cousteau, j'ai pas voulu qu'on parle uniquement de votre grand-père parce qu'il y a un combat et qu'il y a votre récit. Cela dit, et je voudrais pas passer à côté, vous expliquez que votre grand-père,
quand il vous tenait la main, il ne la lâchait pas. Mm. Il l'a lâchée que deux fois.
La première fois, c'était dans le musée océanographique de Monaco où il était directeur pendant 31 ans. Et on se baladait dans les couloirs et on allait prendre une petite porte secrète pour s'échapper. Et il y a eu des touristes, je veux dire américains, parce que je ne sais pas d'où ils étaient. Et c'était au moment où ils lui ont demandé son autographe qu'il a lâché ma main. Et j'ai dit, mais c'est qui ces gens? Ça a été le premier. J'ai dit, ah, ils le connaissent, il n'est pas qu'à moi.
La deuxième fois?
La deuxième fois, c'était en plongée avec lui. J'avais 9 ans, pareil, à Monaco. Et je me souviens très bien du moment où voilà, il m'a lâché la main sous l'eau et j'ai réalisé qu'il était mon attache à la vie à ce moment-là, puisque je ne savais pas plonger, c'était ma première plongée. Et il m'a lâché la main et j'avais l'impression, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais couler jusqu'au fond? Et en fait, non, j'ai flotté. Et c'était un moment de... Peut-être, voilà, c'est quand on va dire, on coupe le cordon ombilical de la famille où on se dit, je suis indépendante. Non, c'est peut-être pas si philosophique que ça. Mais il y a eu cette... Je sais pas comment le décrire, c'est presque une liberté, une peur, et puis un envol.
Les éclaireurs, à retrouver en podcast sur europe1.fr, Mathieu Béliard et ses invités régulièrement désormais chaque semaine sur l'antenne. Je vous remercie de votre fidélité. Le 18-20 s'achève. Demain, c'est Julien Bugier et toute la semaine jusqu'à samedi prochain. Demain matin, donc Mathieu Béliard. Après Sébastien Krebs, merci de votre écoute, de votre fidélité. Portez-vous bien, soyez vigilants, respectueux de ces gestes barrières pour vous porter bien tous ensemble. Merci encore, il est 20h.